Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en janvier 2025 et vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Flavien. Salut Flavien.
Salut Cyrus, t'es avec une moitié de Flavien. Et encore, peut-être un tiers.
Peut-être ce qu'il en reste. Quart.
Ça dépendra du moment dans l'émission.
Ouais. Bon.
Ouais. Dure fête ici. Pas les fêtes les plus joyeuses et les plus enthousiastes de mon existence. J'ai chopé une grosse crève le 24. Et depuis, j'alterne entre l'alitement, les séries Netflix, les films Netflix bien nuls, tu sais que tu regardes quand t'es malade. Voilà. Et quand même un jeu du mois parce que ça suffit pour enregistrer. Alors vous l'entendez, j'ai aussi la gorge prise et tout. Donc voilà, j'essaierai de pas tousser mes miasmes dans vos oreilles, même si c'est pas contagieux par les écouteurs.
Ouais, normalement ça devrait aller. Ouais.
Mais je suis là, effectivement. Moi je vais vous parler de Behind. Et toi Cyrus, tu vas nous parler de quoi pendant cette émission?
Et moi je parlerai de Wizards Cup dans cette émission.
Très bien.
Voilà, de quoi bien commencer l'année 2025. D'ailleurs, on va en profiter pour souhaiter une bonne année ludique, essentiellement, parce que c'est pour ça qu'on est là, nous, 2025, à nos auditeurs et nos auditrices.
Yes, bonne année et jouez bien, hein, cette année encore.
Continuez à jouer bien, en notre compagnie, si possible. Et bah, puisqu'on parlait des auditeurs et des auditrices, on va remercier en particulier une frange, la meilleure, j'ai envie de dire, hein, de nos auditeurs et de nos auditrices, les donateurs et donatrices. On va remercier Calervé, la famille Blu, Robin Ocrite, Aldaripa, Sam Chakit, Yann Le Proto, Frédéric Moulis, Kinarbre, Collignan, Croclume, Ricky et Cédric.
Et on remercie également la Caverne du Gobelin qui nous soutient, qui sont 6 boutiques, qui sont à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Et toutes ces boutiques sont équipées d'un café-jeu. Et également la Caverne du Gobelin, c'est une boutique de vente en ligne de jeux de société sur cavernedugobelin.com.
On va donc tout doucement filer vers notre émission. Avant ça, on va revenir très rapidement sur l'émission précédente.
Ouais.
Dans laquelle on avait Drew et Kurt. Et donc, on avait Kurt qui nous parlait de Star Wars Deck Building Game. Alors, je sais plus, Clone Wars.
Clone Wars édition. Voilà. Voilà. Super Street
pas
Fighter
merci,
Turbo 2 remix.
C'est ça, voilà. Et à côté de ça, on a Drew qui nous a parlé de Bomb Busters. Voilà, donc on a un seul commentaire malheureusement. Bon, faut dire qu'on enregistre de façon un peu rapprochée. Bref, donc ben il y a que Bartouf qui a fait un commentaire. Et alors il a remercié les deux protagonistes pour leur enthousiasme et leur objectivité aussi, parce que ce qu'il a noté surtout, c'est qu'ils avaient réussi à souligner, même si c'est des jeux qui leur plaisaient beaucoup hein, à Kurt et Drew, ils ont aussi réussi à souligner les limites qu'il peut y avoir sur les jeux, et lui bah typiquement il a saisi ses limites et puis voilà, il s'est dit bah c'est peut-être pas trop des jeux pour moi quoi. D'ailleurs, je vais faire une petite digression parce que c'était Drew qui disait que selon lui il fallait vraiment enchaîner les parties de Bomb Busters.
Ouais.
Moi je fais la campagne aussi là avec mon fils et ma femme. Alors je confirme déjà que la configuration à 3 elle est vraiment bien. J'avais des doutes moi franchement
avant. Avec le rôle de capitaine qui a deux c'est un rôle différent du coup ça crée un peu une asymétrie dans la sensation de
ouais, c'est léger mais effectivement il y a un côté ouais, il faut que je donne des indices aux autres quoi, plus okay. que j'essaie de jouer, je trouve. Alors, il disait qu'il fallait y jouer de façon très rapprochée. Non, on joue pas spécialement comme ça et ça me gêne absolument pas, donc enfin tous les trois on n'est pas gênés par ça, donc je pense pas qu'il faut prendre ça comme un frein, le fait de jouer de façon très rapprochée. Nous, on fait des sessions toutes les semaines, toutes les deux semaines, quoi. Ouais. Bon, certes, c'est plus qu'une fois par mois, quoi. Mais bon, je pense ouais. Même une fois par mois, ça passerait, quoi.
Moi, j'ai le même problème qu'avec The Crew, que j'ai résolu uniquement en ligne avec The Crew. C'est qu'à chaque fois, je le fais découvrir à des nouvelles personnes. Et donc, tu sais, il faut repasser un peu par les phases de tuto.
Ah oui.
Pour un peu expliquer, etc., le fonctionnement. Et en fait, c'est des nouvelles personnes. Et après, je prolonge pas. Donc, j'ai jamais dépassé les boîtes, les missions 7-8, quoi. Surtout que moi, je suis un peu plus réservé que la plupart des gens sur le jeu. Mais j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir dans les boîtes futures. On verra. Mais peut-être le pour et le contre futur, qui sait.
Qui sait, peut-être, ouais. Voilà. Voilà. Donc, il y avait qu'un seul commentaire officiellement de Bartouf. Et du coup, bah, on s'est permis, hein, comme vous voyez, de rajouter un petit peu, oralement. Voilà. Eh ben, écoute, Flavien, je te propose que tu démarres avec Behind, puisque tu nous l'as dit, tu vas nous parler de Behind.
C'est parti. Alors, Behind, qu'est-ce qu'il y a derrière Behind?
Ah, oh, ça y est, c'est fait.
On peut se demander qui est Behind. Derrière Behind, c'est Cédric Millet, l'auteur, qui est un auteur que, bah, on en a parlé avec Benoît FX dans les dernières chroniques, c'est l'auteur aussi de Kyoto no Neko, qui est sorti en fin d'année 2024. Il a fait aussi avant Tiny Acrobat, c'est Meeple Circus, du côté des jeux qui sont les plus connus de sa part. Et c'est quelqu'un qui a découvert le jeu de société assez récemment, en 2009. Bon, récemment, disons que c'est pas un auteur de l'âge de Feiduti, Catala et compagnie, quoi. Et du côté des illustrations, c'est rigolo parce que j'ai parlé de fil rouge la dernière fois que j'étais dans les jeux du mois. Il y a un peu une filiation comme ça, puisqu'il y a une personne qui a créé le système, c'est Cédric Millet, et il y a des illustrateurs et illustratrices qui vont dépendre en fait des scénarios. Là, c'est Pierrot pour une des enquêtes, un des tableaux. Ensuite, il y a Martin Wittberg et il y a Maud Chalmel qui est la troisième personne, qui est pour le troisième tableau. Donc la différence avec Fil Rouge, évidemment, c'est que Fil Rouge, c'était une personne qui illustre par boîte. Là, c'est une personne qui illustre par enquête. Chaque boîte contenant trois enquêtes tableaux. Vous verrez que j'utilise parfois un peu différents termes pour parler du jeu. Du côté de l'édition, c'est chez Kif, qui a fait donc l'hippogramme, Stop Mirror, Let Me Go l'an dernier. Au niveau du nombre de personnes à table, il y a marqué un plus. Donc on peut jouer autant qu'on veut, la règle est, je reviendrai sur la règle, mais elle est honnête, elle dit que je vous dis pas plus que deux ou trois, quoi. L'expérience idéale c'est deux pour eux en tout cas. Au niveau de l'âge recommandé, c'est 10 ans et plus, j'imagine que bon voilà. Tu auras peut-être des retours à me faire là-dessus, toi.
Non, bah, on y a joué que les deux avec ma femme, donc non. Okay. J'ai pas de retour là-dessus.
D'accord, ouais. Je pense que pour certains des. En fait ça va dépendre, je pense, des thématiques et tout, mais je pense que le concept en tout cas peut être découvert plus jeune. Alors la durée, on reviendra aussi dessus, 45 à 90 minutes par scénario tableau. C'est un jeu qui est fabriqué en Chine, qui contient que des tuiles et des règles. C'est toujours un peu dommage parce qu'en plus c'est une édition uniquement francophone pour l'instant, hein, les règles sont uniquement en français. Donc là il y a une usine qui s'est montée, on a vu dans le Grand Est sur l'initiative.
Qui est en train de se monter, attention.
Qui est en train de se monter, ouais, c'est ça, les premiers projets vont commencer à être lancés en 2025 je crois. Et peut-être que ça ouvrira des portes, en tout cas je l'espère, parce que c'est vrai que pour des jeux de ce type de matériel, c'est toujours un peu dommage d'aller si loin. C'est un jeu qui est disponible à 20,90€ chez la Caverne du Gobelin. Et un dernier point, c'est assez étonnant, mais la règle n'est pas inclusive. Alors c'est un tout petit détail, il y a un seul moment où il y a marqué joueur dedans et pas joueuse. Alors, et je dis que c'est étonnant parce qu'en général, Kif, dans leurs règles, utilise l'inclusive d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, là je voulais souligner le fait que c'était pas le cas, parce que ça m'a surpris, enfin je le mentionne en général, mais là c'était d'autant plus surprenant. Alors, Behind, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a eu le prix du club de Boulogne-Billancourt, tu sais, le concours
des protos
de Boulogne-Billancourt il y a quelques années, ce qui est pas trop étonnant, parce qu'il a vraiment un concept assez fort. Moi, de mon côté, comment je l'ai découvert? Alors j'en ai déjà entendu parler l'année dernière, après des essais, des gens qui ont essayé à Cannes, des gens qui ont essayé à l'alchimie, etc. Par la suite, faut savoir que Kif a mis en place quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. C'est quelque chose qui me faisait penser aussi à ce qu'ils ont fait sur Micro Macro, par exemple, ou des choses comme ça. C'est une démo accessible sur navigateur. Alors sur ordinateur uniquement, alors sûrement sur Mac aussi, mais n'essayez pas sur smartphone, ça ne marchera pas. C'est dommage.
Ouais,
j'ai essayé parce que je me suis dit, vas-y, je voudrais. Pour raison perso, je voulais faire des captures.
C'est étonnant parce qu'on veut, enfin, il y a que du glisser-déposer, quoi. Mais
ouais. Okay. Mais du coup, en fait, si tu cliques sur lancer la démo, bah, ça ne te mène nulle part. En tout cas, sur mon portable et sur mon navigateur. Vous me dites dans les commentaires si vous y arrivez. Mais en plus, derrière la boîte de Behind, tu vois, ils pointent ça et ils mettent vraiment sur ordinateur. Donc, je pense que c'est une contrainte technique qu'ils ont eue. Dommage. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait une démo quand même. Donc cette démo, je l'ai faite et ils sont passés à Strasbourg, au Philibar, il y a quelques semaines de ça, un peu avant la sortie du jeu, parce qu'il a été retardé en boutique, etc. Donc bref, ça devait être le jour de la sortie du jeu qui passait et finalement le jeu était pas là. Et
c'est
ouais, c'est dommage. Bon, ils en avaient ramené, je crois, quelques-uns pour la boutique, mais un peu dommage. Et du coup, au Philibar, tu sais, ils font souvent des soirées éditeurs, etc. Et donc j'y suis allé avec Pauline, ma compagne, et on a pu faire une deuxième démo qui existe, qui devrait être donc disponible sur les festivals à venir, j'imagine. Et elle a fait aussi la démo que moi j'avais fait, dont moi je me rappelais déjà plus évidemment, hein, parce que ma mémoire. Donc voilà pour ce qui est de la découverte. Et c'est un peu, en fait c'est rigolo parce que c'est comme pour Fil Rouge, c'est-à-dire que la démo de Fil Rouge m'avait donné l'envie de des promesses pour ok ça vaut le coup de découvrir ce que le jeu a à offrir à la fin en version finale. Bah là un petit peu pareil. Donc le principe de Behind, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, je peux vous faire les règles vraiment complètes pour le coup. En gros, vous avez des tuiles qui sont soit des carrés, soit des rectangles, donc qui sont des rectangles, hein, puisque un carré est un rectangle, rappelons-le. Et donc c'est des tuiles que vous allez assembler, coller les unes aux autres sur leur recto, et vous allez les coller pour faire un rectangle. Et à la fin, bah ça doit avoir du sens, ça doit résoudre quelque chose, une petite histoire. Et à la fin, vous allez révéler les tuiles latéralement, hein, comme c'est écrit bien en gras dans la règle, pour vérifier en fait si c'est juste et pour voir si vous avez correctement résolu le puzzle. Donc c'est vraiment, il y a la seule contrainte, c'est que c'est un rectangle et vous pouvez utiliser des indices, etc. Mais il y a rien d'autre que ça. C'est vous avez des tuiles, vous les collez les unes aux autres. Et voilà. Hein, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Je sais pas toi qui as joué.
C'est vrai. C'est vrai que le seul effectivement la seule question que tu te poses quand t'as pas lu les règles, parce que moi j'ai essayé de faire la démo effectivement, même si je l'avais pas fini. Enfin, tu lances le truc et tu comprends en fait tout de suite ce qu'il faut faire.
Bah
c'est hyper intuitif. La seule question que tu te poses à un moment, c'est attends, est-ce que ça doit faire un carré, ouais, un rectangle? Est-ce que je connais la forme que ça va avoir à la fin ou pas?
Ça, c'est très important, j'y reviendrai, mais effectivement, ouais, il y a le rectangle qui est dans les règles et qui permet justement de définir des cadres dans lesquels tu peux évoluer et qui évite d'aller dans tous les sens. Mais ouais, donc voilà, assez évident. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la révélation qui va te permettre la validation, en fait. Tu vois, c'est vraiment le petit truc final qui va te dire, bon, bah, vous avez réussi ou pas. Et pour voir si ta logique était bonne. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu commences à prendre les tuiles et tout, et alors, je sais pas, tu me feras un retour, moi, je suis curieux quand même d'entendre d'autres expériences, mais je pense que c'est assez classique comme approche. C'est, tu prends et tu vas commencer par des correspondances vraiment de type puzzle. Et alors, c'est là que moi, je fais la distinction puzzle, tu sais, on entend puzzle game, souvent, surtout en anglais, pour parler des jeux d'énigmes. Et les puzzles en français, c'est plus les jigsaw puzzles, tu sais, les puzzles avec des pièces que tu encastres, etc. quoi.
Ouais, c'est vrai. Le puzzle game, c'est à la fois le jeu de effectivement de logique, mais c'est le terme qu'on utilise parfois pour les jeux dans lesquels il faut bien
les
enchaîner
smart games,
ses actions.
Par exemple.
Aussi. Mais il y a aussi le, c'est un puzzle game du style, bah les typiquement des Cascadia, le nom m'échappe.
Azul.
Les chats là.
Calico,
tu vois, des trucs comme ça où en fait bien agencer tes tuiles va te faire scorer aussi, quoi.
Ouais, ou t'essayes de faire rentrer les trucs dans des cases pour que ça maximise à fond.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ok. Je vois un peu. Moi, c'est vrai que j'utilise pas trop puzzle game, et pourtant c'est rigolo parce que en termes de vocabulaire d'adjectifs pour ces jeux-là, je dis brainy, tu vois, le côté un peu casse-tête, plus casse-tête que puzzle presque. Mais j'utilise aussi puzzly, hein, en anglicisme pour ce genre de jeu également. Mais donc, ce qui est cool dans Behind, c'est que ça mélange à la fois le puzzle jigsaw, où tu vas coller les pièces les unes aux autres, et puis ça va se transformer en puzzle game, au sens plus énigme du terme. Mais en tout cas, moi, je sais pas toi comment tu commences, mais nous, clairement, on commençait par la deuxième. Alors, je vais le dire tout de suite aussi, je vais pas du tout spoiler le jeu ou quoi que ce soit de ces tableaux. Je pense que, comme pour Fil Rouge, il y a suffisamment de choses à en dire sans révéler quoi que ce soit. Des puzzles et de leurs spécificités. Mais disons que dans le deuxième, par exemple, il y a du texte. En tout cas, je vais pas dire plus que ce que vous verrez sur le recto des tuiles, quoi. Il y a du texte parce que donc c'est le scénario illustré par Martin Wittberg qui est le pionfesseur. Ça, ce serait cocasse. Un scénario illustré par Martin Wittberg qui s'appellerait le pionfesseur. Le professeur donc, et qui est une espèce de BD, hein. Martin Wittberg vient du blog BD à la base, hein. Il a illustré beaucoup pour Le Monde et tout, et donc ça, on retrouve sa passion, les patates et compagnie, pour l'équipe aussi. On retrouve sa passion pour ce média là dedans. Il y a une des démos aussi de qui est illustré par Pierrot, qui reprend certains des codes de la BD. Et donc, dans cette BD, il y a des bulles, où il y a des dialogues, ce qui n'est pas forcément le cas partout, tu vois, mais dans tous les cas, dans les trois... dans certaines énigmes, en tout cas, il y a du texte. Et donc, on commence par, effectivement, assembler les textes qui vont ensemble, ou bien des prolongements logiques en termes d'illustration, tu vois, des trucs où tu te dis, bah là, ça peut que être ça. Vous faites comme ça aussi, vous, au début, quand vous découvrez le jeu, ouais.
Ouais, pas carrément. Ouais. Tu vas chercher les trucs qui sont évidents. Donc du coup, bah t'assembles les pièces comme dans un puzzle au sens français du
et
terme.
Tu te dégages complètement de toute narration, quoi. Enfin, de toute histoire, de tout. Je reviendrai un peu sur la narration, mais.
C'est, alors pour le deuxième, c'est quand même un peu plus, un peu plus touchy de procéder comme ça en fait. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va chercher les trucs évidents. Donc on va faire des groupes, on va faire des trucs qui forcément vont ensemble, quoi. Voilà, c'est ça le truc. On va d'abord parler des évidences, du coup en mode puzzle, et même pour le deuxième, pour le coup, hein, il y a un côté technique de puzzle qui va être utilisé en premier, et ensuite là tu passes au côté plus un peu énigme, quoi.
Ouais, et c'est trop drôle parce que ce que tu dis, le côté technique de puzzle, bah ça se met vraiment en place en fait, et alors surtout quand tu joues quand tu joues tout seul aussi. Moi j'ai essayé à 1, 2 et 3 pour le coup, et vraiment je conseille de pas dépasser les 3, hein. Jusqu'à 3 c'était plaisant. Tout seul évidemment vous aurez pas les cerveaux qui vont se répondre, hein, voilà, logique. Mais surtout moi ce que j'ai aimé quand j'étais à plusieurs, c'est que les techniques de puzzle, alors il y a pas de, tu vas pas commencer par les coins et tout, tu sais, enfin pas tellement, mais par contre t'as le rassemblement par couleur ou par illustration qui ont du sens. Et il y a aussi un truc qui se met en place, c'est que ça se segmente un peu autour de la table. Je sais pas si vous faisiez ça, mais nous, naturellement, en fait, aussi parce qu'on a des approches différentes, qu'on remarque certaines choses différemment selon notre cerveau, bah on va commencer à composer chacun ou chacune de notre côté une partie du puzzle. Vous avez aussi eu ça, vous, à prendre un peu comme ça des bouts de trucs, à faire chacun de votre côté à certains moments?
Bah ouais, parce qu'en fait tu peux pas vraiment, tu vas pas t'amuser à saisir les pièces tous les deux en même temps. T'es obligé, en même temps tu veux participer, ça veut pas juste regarder. Donc c'est pour ça qu'effectivement la configuration à deux elle est bien, parce que jusqu'à deux ça va, tu peux dire ok on sépare les trucs, et t'es pas trop frustré d'avoir une partie du jeu que tu fais pas vraiment, tu vois, parce que tu vas pouvoir la contrôler derrière, la regarder toi aussi, confirmer ou infirmer, mais au-delà ça va devenir hyper frustrant, quoi. Ça, moi c'est une partie qui fait penser un peu aux escape games, tu sais, quand t'es dans une salle et puis
ouais, micro macro aussi je pense.
Ouais, dans micro macro aussi tu peux avoir ça, mais
même si micro macro l'espace est plus
J'ai moins senti ce côté où tu fais une partie. Moi ça me fait vraiment penser aux escape games, parce que c'est vraiment t'as de la manipulation,
tu restes debout tout seul au milieu.
Toi dans micro macro t'as pas de manipulation, t'as juste à regarder, donc éventuellement la personne va te montrer un truc, et puis alors toi tu l'auras, c'est pas toi qui l'auras vu, mais tu vas quand même contribuer ensuite à regarder la position du personnage un peu plus loin, voilà quoi. Le côté manipulation du coup que t'auras pas fait, ça c'est vraiment typique de l'escape game, quoi.
Ouais c'est clair. C'est clair. Et donc là, effectivement, être à plusieurs, ça permet aussi cette mise en scène du jigsaw puzzle où quand tu le fais à plusieurs, ben, tu vois, tu partages un peu les tâches, et ça, c'est quelque chose que j'aime assez, parce que en fait, après un moment, tu rassembles, et l'espèce d'euphorie individuelle, le côté un peu eureka où t'es tout seul à faire tes petits plaisirs dans ton cerveau, tu sais que ça te déclenche des petits pics. À un moment, ils sont rassemblés et partagés, et ça, c'est quelque chose que je trouve assez cool comme moment, que t'as pas forcément si tu joues en solo, quoi. T'auras juste les petits pics d'endorphine individuelle. Et donc il y a ce côté très finalement assez froid, assez logique, où t'as pas l'aide de la forme des pièces, hein, évidemment, parce que c'est que des tuiles qui ont toutes la même forme. T'as vraiment la continuité de l'illustration, etc. Il y a aussi autre chose, et c'est là que je vais revenir sur le côté rectangle. Il y a pas grand chose comme règle dans Behind. Il y a juste le fait qu'effectivement à la fin ça va former un rectangle. On connaît pas sa taille au rectangle, hein, ça va dépendre des tableaux, mais on sait que c'est un rectangle. Et c'est mine de rien extrêmement important. Parce que c'est un tout petit cadre, mais tu sais, c'est comme dans plein d'open world ou quoi, à un moment, t'es régi par quand même quelques règles fondamentales qui ont été mises en place par les développeurs, qui ont été mises en place par les auteurs, autrices, dans lesquelles tu es relativement libre. Alors du coup, le nombre de règles, la restriction dont elles font preuve, tu vois, ça va définir un peu ton sentiment de liberté. Ben là, finalement, la règle principale, c'est à la fin, vous avez ce rectangle. Voilà. Et en fait, ça permet justement de se recentrer par moment, parce que je sais pas si dans des boîtes futures, tu vois, ça pourrait sortir de ce cadre-là, mais en fait, ça pourrait ouvrir à des solutions multiples, là où le rectangle te fait te dire, bah en fait, non, ça ne peut pas être ça, parce que là, ça colle pas au niveau mathématique.
Oui, ça va venir confirmer des choses ou contraindre effectivement contraindre la solution, quoi, comme tu l'as dit.
Et ce qui est intéressant là, tu viens de dire confirmer des choses, parce que si le rectangle au début il permet de recentrer sa réflexion, et ben en fait il va l'alimenter après justement par des éléments logiques, parce que tu vas avoir fait des assemblages logiques par l'illustration, et tu vas te dire bah ça peut aller que là parce que ça a pris telle forme. Et alors moi là-dessus, je suis complètement nul. C'est là que les autres cerveaux étaient utiles parce que c'est vraiment de la spatialisation. Mais tu vois, ça donne des réflexions par rebond, par bah comme ça, ça a cette forme-là. Ça se passe plutôt vers la fin de la résolution des tableaux. Tu vois, quand les espaces commencent à être restreints, là, ça a cette forme. Donc ça peut aller là. Donc ça peut pas aller là. Donc ça va là. Donc machin, donc truc. Ah oui, ça fait du sens par rapport à la compréhension. Et je trouve ça intéressant. Tu vois qu'au début, ça te permette de te dire ah non, ça ne peut pas aller là, et que ça aille vers du ah ça ne peut qu'aller là. Il y a une espèce de retournement comme ça dans l'utilisation de ce cadre que je trouve assez maline et que moi j'ai plus constaté parce que c'est pas moi qui le faisais mais que j'ai trouvé que c'était un bon moment parce que tu t'es dit ah en fait le rectangle ça sert aussi à ça quoi. Donc ça c'est vraiment le côté plus logique. Le fait de connaître le média, hein, je parlais du fait de la BD, et dans la démo de la BD, ça aide aussi de savoir un peu comment est constituée une BD, même si c'est, et je pense que c'est nécessaire, ça reste une bande dessinée assez sage, en termes de composition en tout cas, tu vois, c'est pas des cases complètement éclatées, des trucs qui dépassent des cases
oui,
et tout.
Oui, c'est très régulier au niveau des cases.
Ça. C'est très, très sage comme BD, c'est-à-dire qu'une BD comme ça, je m'y ennuierais sûrement. Mais dans le cadre de Behind, pour l'instant, je pense que effectivement, c'était peut-être pas mal de rester à une approche assez classique du découpage par case pour éviter.
Ouais, parce que ça, en plus, ça accentue le côté confusion possible.
Oui. Vous verrez en faisant la deuxième enquête, mais il y a un sentiment de mimétisme qui est intéressant dedans et qui est favorisé effectivement par ce découpage très régulier. Donc ouais, la connaissance du média peut être utile, sinon ouais, je disais les illustrations, les textes, et puis l'analyse d'images. Alors moi j'ai pas eu de problème de colorimétrie, c'est vrai que par contre c'est des petites tuiles quoi. On parlait de micro-macro, tu vois, alors c'est des petits dessins, mais c'est une grande carte. Là, effectivement, parfois il faut vraiment regarder de près quoi, certains trucs. Et alors moi j'ai pas eu de soucis sur, on a eu des soucis sur les démos, mais c'est des questions de qualité d'impression, donc c'est pas grave, c'est pas à mettre au défaut du jeu, tu vois. Vous avez pas eu de soucis de par rapport non. à la taille des tuiles et tout, non?
Non, c'est sûr que c'est pas très grand, mais la résolution était suffisante pour ce qu'on avait à faire dans le jeu, hein. J'ai pas non, pas de contrainte là-dessus, pas de problème là-dessus, non.
Ok, ouais. On en est à cette analyse rationnelle, cette logique pour assembler un puzzle. Et on arrive dans la deuxième partie, hein, dont on a parlé, le côté plus énigme, et c'est là qu'intervient un peu l'aspect aussi narratif, c'est que, et quand je parle de narration, on n'est pas dans Fil Rouge, par exemple, on n'est pas dans Backstories, pour citer des exemples qui sont sortis en 2024, on n'est pas dans ce que, classiquement, on appellerait, même si j'aime pas le terme, un jeu narratif, tu vois, un jeu où il y a beaucoup de textes et une histoire qu'on va lire, qu'on va dérouler. On est dans un pitch. Chaque tableau, c'est un pitch assez simple. Un pitch, un univers visuel qui est proposé par effectivement les différentes personnes qui illustrent, et un petit univers ludique, des petites spécificités ludiques qui vont être particulières à ce tableau. Mais ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des tartines d'explications. Encore une fois, le texte est plus présent dans le deuxième tableau, du fait de du média qu'il utilise. Mais c'est pas pour raconter l'histoire, en fait. L'histoire, on n'a pas besoin du texte pour se la raconter. Elle va être assez légère, mais elle va quand même suffire à déclencher des réflexions et des axes de résolution du tableau. Dans le vol, on sait qu'on est face à un vol, et puis on va assembler les trucs, et puis après on va se dire ça, on va parfois revenir sur le pitch. Je sais que dans la règle, je crois qu'ils disent de bien lire le pitch, tu vois. Et en vrai, il n'y a pas trop des trucs ultra précis, je trouve, dans le pitch. Moi, je m'attendais vraiment à plus un truc comme ça, tu sais, des fois, comme il y avait dans Septième Continent, où ils disent « regardez très très bien les cartes, parce qu'il y a peut-être des trucs très très bien cachés ». Là, je m'attendais vraiment à ce que peut-être dans le pitch, il y ait vraiment un mot, tu vois, qui soit... Et dans la démo, ça m'a un peu fait défaut, c'est-à-dire que je pensais qu'il serait allé encore plus loin en lisant le pitch, et en fait non. Mais... La règle le dit bien, tu vois, ils disent d'abord vous utilisez la continuité des textes et des illustrations, et ensuite faut comprendre la logique du tableau. Et la logique du tableau, c'est la logique en termes de cadre de ce qu'on parlait, et la logique un peu narrative entre guillemets, sachant que l'aspect narratif, on le trouve plus à mon sens dans le premier et le deuxième tableau.
Ok.
Le troisième est un peu différent de ce point de vue-là. J'ai l'impression que sur le troisième, en tout cas, on était plus sur les assemblages logiques que sur la compréhension de l'histoire, si je puis dire, que dans le premier et le deuxième. Et ça doit être sûrement sur le deuxième où il faut vraiment plus comprendre ce qui se passe. Enfin, toi, t'as fait les deux premiers, du coup, je sais pas si.
Ouais, je suis d'accord qu'il faut, ouais, effectivement, il faut bien interpréter ce qui est dit dans les bulles, ce qui se passe dans les scènes, pour vraiment remettre le tout dans le bon ordre, quoi.
Ouais.
Ça joue vraiment là-dessus, plus là-dessus que le premier. J'ai fait que les deux premiers, effectivement.
Et la première démo là qui est sur le site, je trouvais assez belle là-dessus aussi. Il y a un moment de révélation moi, dans cette démo là. Qui est la révélation des lettres en fait et de ce qu'elles veulent dire quand tu les assembles. Je sais pas si tu vois, mais ça te fait penser en fait, ça te fait dire waouh, ok, en fait ça voulait dire ça ces lettres là, alors qu'en fait jusqu'à un certain point ils avaient pas de sens pour moi. Et là et tu te dis ah oui, ça veut dire quelque chose aussi. Et comme ça en fait, ce qui est intéressant c'est que du coup le fait de réfléchir un peu à dans le vol A, donc il s'est passé ci, il s'est passé ça, donc ça irait plutôt ici cette tuile ou plutôt là. Et ben en fait ça va redébloquer une nouvelle approche plutôt tu vois logique et froide. Et en fait comme ça tu vas petit à petit, donc tu commences par le côté plus logique, plus froid, même si finalement tu commences par le pitch, hein, donc tu commences par l'histoire quand même. Mais... Et petit à petit tu vas jongler en fait, une approche va alimenter l'autre, je trouve. Et je trouve que du coup ça donne des rythmes un rythme intéressant parce que bah je pense que c'est pas les mêmes parties du cerveau qui sont sollicitées, tu vois, et ça fait des ruptures comme ça. Et puis ça permet, moi ce que j'adore dans les puzzle games, c'est les moments en fait eureka, tu vois, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les jeux de société, ce que j'aime c'est les moments où tu fais waouh, ah mais c'est ça, et que tu comprends pourquoi c'est ça en fait, pas juste que t'as la bonne réponse. Et je trouve que Behind, il y en a suffisamment en fait, et il y en a suffisamment souvent pour que le jeu, ben, sur l'ensemble du tableau, t'as comme ça, tu sais, des petits pics, tac, 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 qui te stimulent et qui te permettent de se dire, ah ouais, c'est ça, ah, c'est ça. Et ça te relance un peu sur une phase plus studieuse où tu vas réfléchir au truc. Et puis, ah, c'est ça. Et les moments, c'est ça, justement. Tu vois, des fois, tu les as de ton côté parce que tu fais ton petit bout de puzzle. Et puis, des fois, tu fais, en fait, l'aller-retour aussi en termes d'observation entre ton petit bout de puzzle et la bigger picture, tu sais, la grande scène que tu essayes de faire.
Ça c'est typiquement c'est des choses que tu trouves aussi dans des puzzles, hein. Le puzzle encore une fois au sens français du terme, hein.
Tout à fait.
Tu vas faire un petit bout dans un coin, admettons que t'es pas soit t'as pas le modèle sous les yeux, ou même que t'es le modèle sous les yeux, hein, j'ai envie de dire, tu vas dire ah bah tiens ce bout là j'arrive à le raccrocher quelque part, et là tu ah c'est cool, tu vois, il y a un côté très satisfaisant au moment où t'as ton lot de 10 pièces que d'un coup t'arrives à raccrocher sur l'ensemble du reste du puzzle, quoi. Et c'est vrai que ce rythme que crée Behind entre les moments de pure logique, les moments plutôt de pur puzzle et de pure logique, cette alternance, elle crée des petits moments, comme tu dis, des moments de satisfaction en fait. Ça crée des petits pics, comme tu dis, de satisfaction entre ces alternances, quoi. J'ai l'impression quand même qu'ils ont réussi effectivement à faire une alternance suffisamment fréquente et nécessaire en fait, ouais, c'est que c'est vraiment c'est créé par le jeu pour que t'aies ces petits moments de satisfaction qui interviennent régulièrement dans ta partie entre guillemets.
Mais la frustration nécessaire aussi, des fois t'es là et tu dis et des fois tu sens que t'es pas loin du moment eureka, mais tu sais t'y es pas encore, et du coup il y a une bonne alternance comme ça de ces petites frustrations, une frustration, je reviendrai dessus après, mais qui est jamais trop intense non plus, qui permet de donner de la valeur en fait au moment eureka aussi, tu vois. C'est sinon si t'as que du moment eureka, ben en fait tu en as aucun.
Ouais, c'est vrai.
Et ce qui est rigolo, tu vois, tu disais par rapport au puzzle, au jigsaw puzzle, en fait en pensant à Behind et tout, je me suis dit en fait le jigsaw puzzle est un puzzle game déjà, tu vois, c'est déjà une énigme à résoudre. Et finalement Behind, ça fait aussi penser aux puzzles plus que moi je manipule en maternelle en fait, tu sais, des puzzles qui pour faciliter les choses racontent une histoire, tu vois, une scène de la vie.
Oui,
et où
d'accord.
En fait du coup les enfants, pour se raccrocher à ça, au-delà de la forme des pièces, eh ben ils vont essayer de comprendre ce qui se passe sur l'image finale.
Il y a l'enchaînement qui aide, ouais. Il y a l'histoire qui est racontée par le puzzle du coup qui aide. Ouais.
Alors je dis pour les enfants, hein, c'est
très
pour
basiquement
des
les puzzles où t'enchaînes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et chaque pièce a un chiffre, quoi.
Oui, même si là pour le coup en termes d'histoire c'est abstrait, mais en tout cas il y a une narration dans le puzzle quand même.
C'est pour que nos auditeurs et auditrices comprennent un peu de quoi on parle, quoi. Mais
disons les puzzles figuratifs. Pas si on part sur des puzzles abstraits ou de représentation de portraits, mais des puzzles qui représentent une scène qui raconte quelque chose, ben tu peux te servir de ce que ça raconte pour le résoudre. Et finalement, Behind, c'est un peu ça, tu vois, c'est tu te sers de ce que ça raconte pour associer la logique à ça et essayer de le résoudre. Et donc, ouais, t'as ces petits pics de dopamine de ton côté, et puis ça aboutit effectivement à des moments Eureka partagés, et en fait c'est vachement satisfaisant à la fois de partager ta petite trouvaille aux autres et qu'ils se rendent compte, ah ouais bravo et tout, et tu vois que c'est là que c'est bien aussi d'être à plusieurs au-delà du partage des cerveaux, c'est que bah le plaisir comme ça il est d'autant plus fort quand tu le partages, que tu l'offres ou que tu le reçoives. Et ouais, en fait j'adore moi les jeux comme ça qui te font sentir intelligent tu vois, et je trouve que ils y arrivent pas tous parce que c'est une question tu vois de curseur. Et ouais, en fait, il y a les jeux de puzzle qui te font comprendre que eux sont intelligents, et il y a les jeux de puzzle qui te font comprendre ou au moins croire que toi tu l'es. Et moi, j'ai tendance à aimer beaucoup les deuxièmes, par ego personnel sûrement, tu vois. Et quand bien même ça les empêche pas eux-mêmes d'être intelligents, parce que c'est une forme d'intelligence, tu vois, de transmettre ça. Et je trouve que Behind arrive beaucoup ça, et que tu vois, tu dis à l'autre, ah ouais, t'es intelligent ou t'es intelligente, tu vois. Et c'est satisfaisant parce que et on te le dit aussi, et du coup il y a ce côté vraiment collectif qui se mêle au côté individuel que je trouve assez cool quoi.
Quand tu réussis.
Ouais. Moi je suis pas le plus à l'aise là-dedans, notamment j'ai dit sur les questions de spatialisation. Moi c'était plus alors on n'a pas eu du tout de leader ou quoi. Même si, bah voilà, c'est un jeu qui va le permettre, qui va vous, si vous êtes pas avec les bonnes personnes, mais non, ça peut pas être ça parce que machin et tout. Tout est dans la forme, tout est dans la relation de groupe que vous allez mener, hein, évidemment. Et sinon, faites-le en solo si vous avez confiance en personne, comme un puzzle en fait. Et ouais, donc il y a vraiment ce côté-là où on jongle entre les différentes approches du puzzle et qui fait que moi j'aime bien, ouais, dire que Behind est un puzzle game parce que ça recouvre un peu toutes ces approches des différents termes de puzzle. Et qui se mélange effectivement à ce côté plus narratif entre guillemets, quand bien même ça reste assez léger, c'est vraiment un support quand même assez fort. Et pour ça en fait derrière, pour que ça reste un plaisir et que justement en fait moi je suis assez, j'aime pas trop sinon en général les jeux de société de type puzzle parce que je les trouve justement trop fermés et trop comment dire soumis à la bonne volonté de l'auteur ou de l'autrice, tu vois, ou de l'éditeur. Et que l'éditeur, l'auteur a pensé à un truc, et ben il faut que t'ailles comme ça, et puis si t'y vas pas comme ça, ben t'as faux. Et le pire là-dedans étant une doux pour moi, parce que c'était vraiment très arbitraire.
Ouais.
Et qu'en plus, pour le coup, Undo était beaucoup plus axé narration, scénario et tout, et que ça te réfutait des hypothèses que t'avais faites, en disant, bah en fait, ton hypothèse était pas bonne. Alors qu'en fait, si tu c'était d'un point de vue moral ou quoi, elle était bonne. C'est juste que c'était pas celle que tu voulais que j'ai. Et souvent, c'est comme ça. Et moi, ça m'énerve. Je suis là, je me dis, ouais, mais en fait, je trouve que le jeu de société a pas mal de retard sur le jeu vidéo là-dessus parce que le jeu vidéo peut un peu adapter ses indices, tu vois, et faire des gradients beaucoup plus larges ou des manières de donner des indices beaucoup plus fines. Et pour moi, le jeu de société, hein, la première fois que j'ai joué à Unlock, j'ai joué qu'à la première boîte, j'ai dit, bah, pour moi, c'est ultra ringard, j'ai l'impression de jouer à un puzzle game des années 90, quoi. Fait par des gens qui n'ont pas joué à des puzzle games des années 2010, quoi. Et, puzzle game en jeu vidéo, je veux dire. Tu vois, des fans de LucasArts, etc., où tu devais valider des trucs, et si c'était pas validé, c'était faux. Et voilà, il fallait que tu trouves vraiment la bonne combinaison. Et Behind a ça de plus moderne, justement, que je trouve qu'il trouve le bon équilibre pour, créer ce cadre, mais qui est pour moi pile à la bonne taille pour que justement je sache y évoluer et y trouver du plaisir. Et là-dessus, ça passe par les règles. Alors, j'ai déjà dit qu'il y avait l'histoire du rectangle. En fait, les règles, ce qui est rigolo, c'est que plus de la moitié des règles, pour moi, c'est vraiment plus des conseils de jeu que des règles, hein, puisque j'ai,
ah oui,
j'ai dit.
Ouais,
c'est... Et c'est cool parce qu'en fait, ça concentre un peu le truc sur comment est-ce que vous pourrez profiter au mieux du jeu. Libre à vous de faire autrement. Libre à vous de jouer à 99 si vous voulez, avec chacun une tuile. Mais c'est sans doute pas
gentil. Hein, chacun une tuile, il y aura pas une tuile chacun.
Non, il y aura pas une tuile chacun. Faudra faire un battle royale avant. Ouais, il y a toute une partie à la fin conseil de jeu, tu vois, avec le nombre de personnes. C'est là qu'ils disent les parties à deux joueurs, tu vois, où je parlais de l'inclusivité qu'il y avait pas. Prenez le temps de bien observer et si vous bloquez plus de 10 minutes, il y a vraiment une notion temporelle, alors qui pour moi est voilà. Ça, c'est vraiment à vous de voir, mais pensez à lire un indice, je vais revenir sur les indices, justement. Mais il n'y a pas que dans ces conseils de jeu, en fait, tu vois, il y a vraiment une attention sur la révélation finale. Hein. Quand tu as fini de faire ton rectangle, tu as donc toutes tes petites tuiles qui sont arrangées. Alors nous, quand on était à trois, on a interdit à une personne de participer à la révélation parce qu'en fait, à chaque fois, il cassait tout. Big up Jimmy Celtics, hein. C'était de la part d'une personne qui n'était pas moi. Stop, tu touches plus. C'était l'effet leader, mais parce que c'était voilà la minutie, hein. Et mais donc oui, t'as ce tableau, ce rectangle des tuiles avec leur recto donc que t'as reconstitué, et puis tu vas les retourner une par une pour et normalement à la fin ça va faire une illustration finale qui sera cohérente ou pas si vous avez raté. Et je reviendrai un peu là-dessus parce que c'est un moment assez important du jeu qui apporte beaucoup, je trouve. Mais donc imaginez-vous cette scène, et ben dans la règle ils disent vraiment, ils mettent l'emphase sur le retourner latéralement, parce qu'en fait là ça va rejoindre un peu la critique de Pionf, tu sais, qu'il avait fait sur Spots sur ouais, le sens de retournement des trucs. Parce qu'en fait, si tu les retournes effectivement verticalement, bah en fait, ça n'aura aucun sens. Ton image.
Ouais, bah bien sûr, tu vas faire ton image à l'envers, du coup. Enfin, on n'est même pas à l'envers.
Elle
fait n'importe quoi.
Ouais, c'est ça. Mais donc ouais, il y a ce côté-là, et puis dans le déroulement du jeu aussi, tu vois, il y a vraiment plein de trucs qui sont là pour dire comment est-ce que on vous conseille de jouer à Behind pour que ce soit le plus plaisant possible, pour que ce soit le plus fluide, pour que justement le rythme dont je parlais plus tôt soit le plus plaisant.
Ça c'est bien joué de leur part, hein. Toi typiquement le fait de souligner que l'expérience elle sera meilleure à deux, bah ils ont tout intérêt à le faire. Hein. On n'arrête pas de le dire sur plein de jeux, qu'il faut arrêter de mettre des configs complètement abscons sur la boîte. Bon, je crois que sur la boîte ils mettent quand même de 1 à plus.
Ouais, ils mettent un plus, ouais.
Un plus.
C'est dans la règle.
Je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit marqué sur la boîte que c'est 2 la meilleure config, mais au moins ils le mettent dans la règle.
Ouais. Et après, à 3, moi j'ai trouvé ça plaisant hein, aussi également, mais j'irai pas au-delà. Là où, par exemple, ouais, enfin, sur fil rouge, tu vois, j'aurais pas de souci à aller jusqu'à 4 parce que je pense que ça a vraiment un intérêt en termes de game design. Là, je pense qu'elle est au-delà. Ça n'aura que des défauts.
D'autres arguments à souligner du côté de fil rouge, oui, bien sûr. Là, c'est vraiment le côté, la disposition à la table, le fait de pouvoir se partager, les zones à rassembler,
à organiser,
etc.
Ouais,
enfin, voilà. C'est-à-dire, si tu joues à 4 à Behind, à un moment, c'est un peu comme si tu faisais le quart du jeu, quoi.
Ouais.
J'exagère évidemment parce qu'il y a un moment où les cerveaux vont se rapprocher pour essayer de brainstormer des éléments.
Ouais,
mais
même à 3, en fait, tu vois, des fois on avait envie de se piquer certaines tuiles. Même à 3, tu vois. Parce que ouais, t'es là et tu te dis, ah, celle-ci elle irait bien dans mon truc, mais il est en train de l'utiliser. Alors je vais pas lui prendre. Et donc il y a ces règles-là qui sont vraiment là pour aider à la bonne expérience du jeu, et ce qui va favoriser en fait que le jeu soit plaisant et que ce soit pas frustrant pour moi comme on pu l'être par exemple un Unlock. Exit, je trouve, était, en tout cas la boîte d'Exit que j'ai fait cet été m'a moins déçu de ce point de vue là. Behind assume aussi de dire le système de points, il y a pas de points. C'est vraiment dans les conseils de jeu aussi, dans Behind, il n'y a pas de score. Il y a juste la satisfaction d'avoir réussi à reconstituer le tableau. C'est la seule récompense, c'est t'as réussi ou t'as pas réussi, il n'y a pas de score. C'est tout. Et comme ça permet de dire que BGG accepte aussi sur sur son site les jeux sans score, puisqu'il y a Behind dessus.
Sans score, c'est pas le problème, c'est la notion de victoire-défaite.
Ah oui, c'était ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Oui, tout à fait.
Théoriquement, finalement, si ton tableau à la fin il est pas
oui,
correct, t'as perdu. Mais il y a un truc avec les indices, je sais pas si tu voulais en parler, mais ils te disent aussi quand même dans la règle, avant de révéler le tableau,
ouais,
de dépiler les 6 indices quand même.
Tout à fait. Ouais, je vais parler du système d'indices parce qu'en fait, pour moi, il a du sens avec cette suppression de système de points. Ou de score, disons. Parce que, moi, le score, dans ce genre de jeu, ça m'emmerde. Parce que, souvent, dans les enquêtes, dans les puzzles, t'as la satisfaction juste d'avoir résolu les choses. Pas forcément à toute vitesse ou quoi. Alors, par contre, ça, je comprends, tu vois, qu'on puisse être sensible à ce côté plus de performance. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours emmerdé dans ce genre de jeu. Surtout qu'en fait, je trouvais souvent les systèmes de score un peu injustes et un peu mal faits, en fait. C'est peut-être que les systèmes de score sont mal faits, tu vois, dans ceux que j'ai essayé. Plus que, mais tu vois, dans Fil Rouge, c'est aussi ce que je regrettais, que je trouvais un peu inutile. Là, je trouve que déjà, c'est bien. Alors, c'est pas le premier jeu à le faire, hein, supprimer le score, mais il y a quand même encore beaucoup de jeux dans ce genre-là qui mettent un score un peu nul parce que on est dans du jeu de société, il faut du score. Alors évidemment, il y a donc ces systèmes d'indices, donc je crois qu'il y en a 6 par tableau, que vous allez étaler au début, et puis le jeu dit, bah si vous bloquez au bout de 10 minutes, allez voir un indice. Alors c'est pour le coup là-dessus, soyez pas aussi rigoureux que ce que vous dit la règle. En gros, ça va dépendre de votre tolérance à la frustration. Hein, c'est quand vous sentez que vous prenez plus de plaisir et que ça vous emmerde, que la frustration devient trop forte pour que ce soit plaisant, bah allez voir un indice effectivement. Le truc, c'est que effectivement ces indices, souvent dans les jeux de puzzle, dans les jeux d'enquête, dans les jeux d'escape, c'est des trucs qui vont t'enlever des points. Tu vois, dans Exit, dans Unlock, c'est ça. Le truc, c'est que ben les indices, c'est super dur à calibrer. Parce que tu sais pas au moment où la personne va aller chercher l'indice où cette personne en sera de sa réflexion.
Non, en tout cas dans les jeux qui le font, en général, il y a rien qui calibre où t'en es quoi.
Mais parce que c'est pourtant, très dur en fait.
Pourtant dans Dunlock il pourrait.
Dans Unlock
peut-être qu'ils se sont améliorés dans les derniers.
Peut-être, j'espère. Moi je parle vraiment de mon expérience du premier scénario de la première boîte d'Unlock qui est vraiment tu vois assez lointaine et qui était aussi enfin une base. Ouais.
Et du coup, tu te retrouves effectivement avec des indices de trucs que tu connais déjà et qui t'enlèvent des points.
Et voilà. Et ça, moi, je sais que ça me fait sortir de mes gonds et je me dis, c'est nul, c'est tout pourri, votre jeu, il est mal fait, vous êtes des ringards, allez jouer à des jeux vidéo qui, les jeux vidéo, en fait, ont tout le tracking, entre guillemets, pour savoir
où
t'en es.
Ah, bien sûr, oui,
voilà.
C'est sûr.
Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'insupporte. Je m'en fous, en fait, que l'indice que je retourne, il me serve à rien, tu vois. Mais si je suis puni pour ça, là, ça m'énerve.
Ouais, c'est ça.
Et donc là, le fait que, dans la règle, il dit, bah, en fait, si l'indice que vous retournez ne vous apporte rien, bah, retournez le suivant. Bah, le fait que ce soit associé au fait qu'il n'y ait pas de score, c'est ce qui fait que je suis pas en train de râler. Quand bien même, et bah, des fois, les indices, effectivement, ne m'apportent rien. Et d'ailleurs, nous, on s'est trompé, alors qu'on avait des fois, effectivement, tu l'as précisé, le jeu t'incite aussi à dire, histoire de pas rester sur une mauvaise partie ou quoi, regardez quand même les indices, ça ne vous coûte rien. Nous, on s'est quand même des fois trompé, tu vois, sur des petits glitches. J'appelle ça des glitches, moi, parce que je trouve que c'est un peu ce côté-là quand tu révèles.
Aussi,
Et ça n'empêche pas de se tromper, en fait, tu vois, de révéler tous les indices, mais juste c'est de donner toutes les chances de pouvoir recontempler ton truc avant de le résoudre en ayant toutes les clés en main, en tout cas toutes les clés qu'ont voulu te donner les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. Sur ce tableau-là. Et donc moi je trouve ça super effectivement en termes d'expérience de jeu cette association-là du système d'indices qui est pas voilà les indices effectivement sont pas parfois pas des révélations. Nous c'est rare que vraiment on soit dit ah ok c'était pour ça. Si vous voulez faire un score vous avez qu'à utiliser le système d'indices. Si vraiment vous cherchez la performance, je sais qu'il y en a qui font ça et qui s'exhibent fièrement sur Discord ou sur les réseaux sociaux en disant moi, j'ai fait behind et tout, machin, les trois, sans aucun indice. Mais tu sais, ils le disent bien, sans aucun indice, tu sais. T'as l'impression que la satisfaction, c'est pas d'avoir fait le tableau, mais c'est sans aucun indice, tu vois, le côté grosse performance.
Bon, bah après, chacun ira chercher sa satisfaction là où il veut.
C'est ça, vous pouvez le faire. C'est vrai que moi, c'est pas là-dessus, tu vois, c'est pas sur le score que j'ai ma satisfaction. Ma satisfaction, elle vient effectivement de cette mise en scène finale, qui est le retournement des tuiles, où je trouve que c'est une super idée pour valider entre guillemets le tableau.
Parce qu'il y a ce petit côté suspense aussi, c'est quand tu vois chaque tuile que tu retournes, est-ce qu'effectivement elle va s'assembler bien à côté. D'ailleurs, je trouvais que sur le premier, il y a un coupage un peu bizarre qui fait que tu as quand même un doute sur tout le bord de gauche.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais je trouve que c'est de la vraie mise en scène, que ça joue sur le petit moment de tension qui est le retournement d'un objet, que ce soit une tuile ou une carte, on s'en fout un peu, mais retourner une carte, hein, quand tu pioches une carte à Dominion, bah t'as un peu de suspense. Et ça met vraiment le focus là-dessus, et surtout ça le réserve à l'apothéose en fait, tu vois, du jeu, c'est la toute fin, et c'est le moment vraiment, l'apogée un peu de ta partie. Et alors effectivement, si vous êtes un minimum soigneux, il y a presque un côté ASMR, tu sais, où tu retournes les trucs. Alors c'est pas forcément pratique parce que tu les as d'abord très bien assemblées pour vérifier, et quand tu les retournes, elles se réécartent un tout petit peu, tu sais. Alors tu les recolles précautionneusement. Et je trouve que c'est vraiment super. Alors comme les puzzles, moi tu sais, j'aime pas afficher des puzzles chez moi parce que on voit toujours le découpage entre les pièces. Bon là aussi, il y a le découpage entre les tuiles, donc c'est pas parfait. Mais je trouve que
tu les as pas assez bien serrés.
Ça doit être ça, ouais. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une super méthode de résolution qui est beaucoup plus satisfaisante à mon goût, en tout cas, que des points. et qu'un système de score de bravo, t'as utilisé 3 indices seulement, donc tu ne perds que 3 points. Et surtout, tu vois, je disais, on s'est trompé, et je parlais de Undo, je râlais, je parlais parfois de... Là, j'ai l'impression que c'est dans les 3 scénarios, ça a toujours été juste. C'est-à-dire que si on s'est trompé, en fait, on a vu pourquoi est-ce qu'on s'était trompé et comment est-ce qu'on aurait dû ne pas se tromper. Et ça, c'est très important dans ce genre de jeu. Parce que si on te dit, bah, tu t'es trompé et qu'en fait, c'est la faute du jeu, bah, c'est impardonnable, en fait. Et ça m'est déjà trop souvent arrivé dans des jeux, de manière générale, pour que je le pardonne et pour que je passe à côté. Là, tu vois, les quelques erreurs qu'on a fait, que ce soit sur les démos ou que ce soit sur les jeux finaux, c'est là, je me suis dit, ok, bah, ouais, ok, t'as raison, le jeu, et je me suis trompé, et on s'est trompé, et c'est notre faute. Et c'est bien. C'est juste, en fait, quoi. Et ouais, donc voilà, ouais. Bonne expérience, plein d'éléments pour fournir une expérience de jeu que moi j'ai trouvé très bonne, au-delà d'effectivement les éléments qui sont là pour manipuler cette expérience de jeu et pour un peu se l'approprier, tout ce qui est la manipulation. Donc, ouais, vraiment trouver ça super, Behind. Moi, je suis, comme dit, je suis pas trop client de ce genre de jeu en général parce qu'il y a trop de faiblesses par rapport aux jeux vidéo. Moi, j'attends un système d'indices. Alors, c'est Return of the Obra Dinn. En plus, là, comme je suis malade, j'ai joué à des puzzle games sur téléphone et il y en a plein qui m'énervent. J'ai joué à Chance of Senar, j'ai trouvé ça moyen. J'ai joué à Case of the Golden Idol, j'ai trouvé ça moyen. Alors que c'est vraiment des jeux encensés et tout, mais que je trouve... Et je repense toujours à Obra Dinn, en fait, tu vois. Je me dis, en fait, ils succèdent tous. En fait, il n'y en a aucun qui a son brio. Obra Dinn, si tu veux, il te valide les bonnes réponses par groupe de 3. Dès que tu as 3 bonnes réponses, il te dit, ok, ça, c'est bon.
D'accord.
Et tu as beaucoup, beaucoup de trucs à résoudre. Ce qui fait qu'en fait, tu peux, tu sais ce qu'on appelle brute forcer, c'est-à-dire forcer des essais successifs jusqu'à avoir la bonne réponse, mais que vers la fin. Et j'adorerais qu'il y ait un truc comme ça un peu dans un jeu de société. Alors, je sais pas comment ce serait possible, mais tu vois, imagine que Behind, à partir du moment où t'as rassemblé, je sais pas, X tuiles et que c'est bien, pouf, elle se rassemble par magnétisme. Je trouverais ça trop cool, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu mon idée, mais ça me paraît très compliqué à faire. Mais tu vois, c'est une espèce d'auto-validation.
Qui est des espèces de checkpoints, en gros, dans le jeu.
Ouais, c'est ça. Et du coup, Obra Dinn, en fait, permet de progresser comme ça petit à petit en étant sûr que là, c'est juste... Mais ça enlève rien à la réflexion, hein, parce que du coup, enfin, Obra Dinn est quand même assez difficile de ce point de vue-là. Mais c'est plein de petites étapes, en fait. Et j'aimerais bien des jeux de société qui utilisent ça, qui plutôt que des aides, tu vois. Enfin, c'est une aide, mais c'est pas des indices. C'est plus des validations par des checkpoints, comme tu l'as dit, en fait, quoi. Et je sais pas. Fil Rouge faisait un petit peu ça à l'envers, tu vois, dans sa résolution, où tu révèles d'abord la première partie et tu vois si t'as juste. Et si c'est faux, tu peux réajuster la suite.
Ouais, mais c'est... Ah oui, d'accord. C'est quand même à la fin.
Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà. Ça, c'est ce que ça m'a fait penser quand j'ai joué à Behind. Je me suis dit, ah si là, les pièces se rassemblaient en un seul truc et devenaient un seul tenant, ce serait incroyable. Mais la technologie n'en est pas là.
Ouais, ça va être compliqué, ouais.
Et alors, moi, j'ai pas du tout fait ces trucs-là. J'ai fait des jigsaw puzzles et tout, mais j'ai jamais fait les puzzles avec énigmes. Tu sais, des puzzles que tu fais et puis ensuite t'as des énigmes à résoudre dedans. Je sais pas si t'en as fait et si ça peut se rapprocher.
Moi, j'en ai fait des Ravensburger, mais
ils ont pauvre réputation en général.
En fait, c'est très disons que les énigmes qui apparaissent à la fin. Là, vraiment la grande particularité de Behind, c'est que c'est vraiment la rencontre entre le puzzle, le jigsaw puzzle, qui d'ailleurs de tendance, hein, le puzzle au sens français du terme, il est c'est un truc qui est en plein boom, quoi. Ça a redécollé depuis les confinements. Hein.
Ouais. Et dans le jeu de société aussi avec le puzzle aventure aussi qu'on fait ça aussi récemment.
Ouais. Et effectivement, on voit débarquer des jeux autour des mécanismes de puzzle, quoi. Mais le puzzle des pièces. Et là, pour le coup, on a un jeu qui utilise pas le principe des pièces de puzzle qui s'assemblent, mais qui utilise quand même le principe du puzzle, quoi. C'est quand même deux carrés qu'il faut mettre côte à côte pour qu'il y ait du sens. Mais pas un sens littéral, mais un sens au niveau de l'image, quoi. Il y a cet aspect-là, du coup, qui est très présent dans Behind, comme on l'a dit au début, plus le côté énigme. Du coup, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est à la fois un puzzle et un puzzle. Et en même temps, c'est la rencontre de deux, alors c'est peut-être plus tant une tendance que ça, les jeux puzzle, enquête, machin. Mais ça reste quand même quelque chose que...
Surtout dans le premier, parce qu'en plus, c'est le vol, tu vois, donc il y a le côté enquête, en plus, dans le premier.
Ouais, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est ça reste quand même une tendance chez les éditeurs, parce que tous les éditeurs veulent avoir un jeu de ce type-là. Et là, c'est marrant de voir cette double tendance qui se rejoint dans un jeu qui est behind, quoi. Moi, je sais plus où je veux en venir là-dessus, mais
Oui, je parlais des puzzles avec énigmes. En fait, la grosse différence
ouais,
aussi,
énigme, ouais.
C'est que dans les puzzles avec énigmes, l'énigme, tu l'as fait après, souvent, en tout cas,
ouais,
après avoir fait le puzzle, alors que là, tu l'as fait pendant, quoi. Et je trouve ça cool, quoi. Et ouais, ça me fait aussi penser, moi, à ce que je faisais quand j'étais petit avec des Lego, tu sais, où moi, je montais mes Lego et puis je les organisais. Et après, je les rangeais parce que j'avais déjà fait l'histoire, en fait. Et j'ai pas besoin, après, de continuer à jouer avec, puisque je me suis déjà raconté l'histoire. Ben là, c'est un petit peu ça, behind aussi. C'est, tu vois, en fait, quand j'ai fini le jeu, je me suis déjà raconté son histoire. J'ai pas besoin qu'on me raconte plus que ce que je me suis raconté, en fait, et ce que j'ai utilisé comme de l'histoire pour résoudre le puzzle, quoi. Et y a ce côté-là où c'est pendant la création que se fait la narration, entre guillemets, que je trouve assez cool. Dans Behind. Donc ouais, moi vraiment très convaincu par les trois. Le troisième vraiment a un côté parfois coquin. Je parlais des 45-90 minutes, je pense qu'on n'a jamais mis autant.
Nous on a mis max 20-25 minutes sur les deux premiers scénarios. Là non, pour le coup, en revanche, ultra mensonger à mon sens. Hein.
Ok. Moi j'ai... Ouais, après, Fil Rouge montait aussi là-dessus, tu sais. Il disait je sais plus combien de temps par acte, alors qu'en fait, là, tu peux le faire en 15-20 minutes, en tout cas à deux. Nous, on a quand même mis, je pense, bien 45 à 60 minutes par scénario. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a une personne qui est partie pendant, qui est revenue après. Enfin, ce côté-là, c'est assez plaisant.
Ouais, ça serait que c'est souple là-dessus. Hein.
Donc, voilà, au niveau de la difficulté... moi j'ai trouvé que c'était bien équilibré au niveau de la difficulté par rapport à mes goûts personnels. Je pense que ce sera peut-être un peu trop simple pour certaines personnes qui peut-être du coup recherchent le challenge de ne pas utiliser les indices.
Moi tu vois au-delà de parler de simplicité parce qu'on s'est quand même planté toi sur le deuxième scénario, je trouve que le jeu est pas assez dense. Bah typiquement toi le coup du on a joué en je suis en train de regarder en combien de temps on a joué. On a fait 38 minutes quand même sur le premier et 25 sur le
ouais.
Non pardon 38 minutes sur le deuxième pardon et 25 sur le premier.
Ah oui, ouais, parce que
j'étais pas dans le bon sens dans mon truc. Et du coup, je trouve que c'est pas assez dense parce que à la fin, je fais OK, on a joué 25 minutes, on a fait le puzzle. Bon OK, c'était sympa mais voilà, j'ai l'impression entre guillemets de pas en avoir eu pour mon argent quoi, tu vois.
OK.
Et même si tu vois c'est un jeu que j'ai acheté pour la ludothèque donc c'est même pas qui va tourner mais
ça se prête très bien à ça hein, aux ludothèques, aux assos et tout.
Ouais,
en général, moi je sais que mon jeu il va tourner aussi entre des potes une fois que maintenant que j'ai joué mais
ouais, j'aurais voulu un niveau peut-être effectivement un niveau de complexité au-dessus quitte à rester sur le même nombre de tuiles. Pour que l'expérience, elle soit, que je me sois creusé un peu plus la tête, ou qu'il y ait finalement un peu plus d'énigmes à l'intérieur du tableau. Voilà.
Quoi. Ouais. Peut-être que par la suite, s'il y a d'autres boîtes, mais je comprends du coup, parce que du coup, le côté satisfaisant serait encore plus fort, quoi. Enfin, évidemment, la satisfaction que tu as est proportionnelle à la difficulté que tu as eu de l'atteindre, souvent, en tout cas. Et si effectivement en 20 minutes tu as fait le truc et puis que tu te dis bon bah oui on s'est peut-être trompé une ou deux fois mais que ça a pas vraiment de conséquences sur ta frustration ou quoi ou t'as pas eu l'impression non plus que c'est parce que t'avais pas passé assez de temps tu vois
non bah celui, enfin pour le coup le vol on l'a réussi sans voilà quoi on l'a réussi quoi en 25 minutes l'autre on a effectivement raté une ou deux bricoles sur les 38 minutes.
Mais t'as pas l'impression qu'en passé 10 minutes de plus ou 15 minutes, ça aurait marché, quoi.
Enfin, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, ça se serait pas joué sur 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Ça aurait été, durant 2-3 minutes. On aurait juste checké un peu mieux, tu vois. On a voulu peut-être un peu bâcler. On aurait checké un peu mieux. Je pense qu'on l'aurait vu. Parce que quand on a eu la révélation, on a fait, bah oui, en fait, ça avait bien sûr renverser ces deux-là, tu vois. Enfin.
Nous aussi, on a eu ça en général. C'est les, ah ben oui.
Oui, c'est vrai. Bon, ok, admettons. Voilà. Mais en revanche, ce que je reconnais, c'est que là, étonnamment, c'est la structure du jeu que je trouve vraiment pertinente, quoi. C'est ce qu'on expliquait, cette espèce de d'aller-retour entre le côté j'assemble des pièces, j'assemble le puzzle logique de l'énigme.
J'essaie de comprendre ce qui se passe dans ce puzzle global.
Ouais,
aussi.
C'est ça, ouais, voilà. Et ça, je trouve que c'est super bien géré dans le jeu. Mm. Mais du coup, ouais, j'aurais voulu que ce soit un peu plus, qu'il y en ait un peu plus que des allers-retours.
Ouais, ouais.
Du coup, que ce soit un peu plus dense.
Ok. Et bah moi, comme pour Fil Rouge, hein, je suis curieux de voir les boîtes futures, en fait, s'ils vont réussir à renouveler la formule, parce que si, même si là, les trois enquêtes ont des spécificités, ça reste la même essence de jeu quand même. Enfin, je sais pas toi entre tes deux premières, mais t'as quand même un peu les mêmes habitudes, les mêmes réflexes. Alors, va y avoir des petites nuances.
Alors, je trouve que entre les deux premières, il y a quand même, enfin, la première m'avait l'air assez proche de la démo, même si j'avais pas fini la démo. J'avais juste, ébauché un peu pour comprendre le principe du jeu. Le deuxième scénario de la boîte me paraît quand même, tu vois, déjà un peu plus, original par rapport au premier
parce
scénario.
Parce qu'il joue
avec la démo,
des codes d'un autre média aussi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah écoute,
du coup, je pense qu'il y a, encore de quoi faire, hein, j'imagine. Hein.
À voir s'ils gardent ce rectangle.
Ouais, en gardant ou pas le rectangle, d'ailleurs. Je pense pas que ça changerait grand-chose, en vrai. Enfin, faudrait, si c'est pour faire une autre forme, il faut que ce soit exploité. Il faut que ça ait un intérêt.
Il faut que ça ait un intérêt de mise en scène ou narratif, vis-à-vis de l'histoire.
Ouais, ou que ce soit finalement un indice, tu vois, qui était caché dans cette forme, tu vois, j'en sais rien, mais bref.
Ouais.
Mais typiquement, ce que tu disais sur le fait de valider au fur et à mesure machin, je suis sûr que compte tenu de la structure justement qu'a le jeu, qui est parce que quand je parle de structure, c'est qu'en réalité je pense qu'on est assez scripté dans l'ordre dans lequel on va faire les trucs, tu vois. Je pense que c'est assez scripté, je pense qu'on est assez dirigé en réalité, on s'en rend pas compte, mais je pense qu'on est assez dirigé.
C'est du level design, hein. c'est ah bah là il y a ces pièces là, on sait qu'elles vont ensemble, donc ils vont commencer par ça, quoi.
C'est ça, ouais. Et du coup je pense que ce que tu dis est en réalité faisable. Mais toi d'avoir des checkpoints, d'avoir une partie qu'on va faire qui va être finalement une étape obligatoire pour pouvoir faire la suite, et quelque part ça t'aura validé la première partie.
Ouais peut-être.
Mais ça, je serais curieux de le voir, et je pense que c'est faisable.
Donc ouais, à voir effectivement sur de futures boîtes, d'autres idées de mise en scène, d'autres idées de game design, de énigme design, de puzzle design comme on dit. Je pense qu'il y a de la place effectivement aussi, hein. Mais c'est pas moi qui vais vous dire comment faire parce que c'est pas mon taf. Mais je pense qu'il y a de quoi faire de ce point de vue-là. Donc voilà pour Behind. Ouais, moi une belle découverte de cette fin d'année, et ça, comme Fil Rouge, ça a transformé les promesses que avait fait la démo, avec vraiment un côté quand même original dans sa proposition que moi j'aime bien en général. Et ouais. Ce côté où, par rapport à d'autres jeux, j'ai eu l'impression effectivement d'être en confiance et de pas me faire trahir, et d'avoir plein de trucs qui font que on pense à comment va être mon expérience de jeu pour qu'effectivement à la fin elle soit réussie, quoi. Behind, donc, si on reprend la petite fiche signalétique, un jeu de Cédric Millet, illustré par Pierrot, Martin Wittberg et Maud Chalmel, selon les scénarios d'ailleurs. Difficile, hein, de dire, il n'y a pas de scénariste, mais tu vois, enfin, difficile de, enfin, la place de l'illustration est tellement forte dans le puzzle design, que pour moi ils sont autant auteurs et autrices que Cédric Millet là-dessus, en fait, hein. Les tableaux pourraient pas exister sans, enfin, tu vois, c'est le concept, mais sans les illustrations ça marche pas, quoi. C'est donc édité par Kif, ça se joue à 1+, moi je vous conseille donc de pas dépasser les 3 à partir de 10 ans, là encore, hein, franchement, enfin je pense que surtout accompagné, vous pouvez y aller un peu plus tôt, ça dépendra des boîtes, mais durée, du coup, annoncée 45 à 90 minutes par scénario. Nous, on était plus dans les 60 minutes, et c'est à 20,90€ chez La Caverne du Gobelin. Voilà pour les dessous de Behind.
Eh ben, super.
On va pouvoir passer à la suite. Et ça va être à toi. On va parler de Wizards Cup.
Alors, Wizards Cup, c'est un jeu de Seiji Kanai, c'est un jeu qui a été illustré par Yamamori, c'est édité par Jelly Games, c'est localisé en France par la boîte de jeux, distribué par BlackRock, ça se joue uniquement à 2 joueurs-joueuses, l'âge recommandé est de 12 ans, les parties annoncées pour 15 minutes, c'est fabriqué en Chine et c'est vendu à 9,90€ à La Caverne du Gobelin. Alors, Jelly Games, c'est un éditeur japonais. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un éditeur, hein, c'est un espèce de c'est un groupe.
Le groupe.
Ouais, il y a le Gilly Group. Ils ont, bah, ils font des jeux, ils ont des boutiques, ils ont des cafés jeux, ils ont visiblement des services d'impression de jeux. Donc je sais pas s'ils ont des usines ou juste ils font de la prestation. Bref, mais voilà, c'est pour la petite digression sur le monde du jeu de société au Japon. Donc Wizards Cup, ça fait un petit moment que j'attends d'en parler parce que c'est un jeu qu'on a découvert à Essen l'année dernière. Ah non, pas l'année dernière du coup, parce qu'on est en 2025. Ouais. L'année encore d'avant, c'est la saison dernière en 2023, octobre 2023. C'était vraiment un de mes coups de cœur du salon. Donc j'attendais la version française qui est enfin arrivée. Disponible là depuis décembre, si je dis pas de bêtises, ou fin novembre.
Ouais, on savait pas que ça y arriverait parce que c'est quand même, tu en parlais, mais un peu spécifique comme jeu. Et c'est vrai que moi, vous m'aviez bien hypé. Je me rappelle de ton tweet, qui était super enthousiaste et tout. Et moi, j'aime beaucoup aussi Seiji Kanai. En tout cas, Love Letter fait partie de mon panthéon personnel et il y a d'autres jeux de lui que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que t'étais tellement enthousiaste que je crois que c'est, alors je sais plus maintenant parce qu'il y a eu des transactions, hein, mais. C'est Drew qui a pu me le récupérer ou un truc comme ça, et c'est toi qui me l'a refilé après, je crois.
Ouais, peut-être, je sais plus. Voilà.
Mais en tout cas, ouais, ça m'avait bien enjaillé aussi la manière dont vous en aviez parlé.
Alors qu'est-ce que c'est du coup Wizards Cup et pourquoi on attend d'en parler depuis aussi longtemps? Wizards Cup, en fait, c'est un auto-battler vu par Seiji Kanai, et donc avec tout ce que ça va embarquer, hein, parce que quand on parle de Seiji Kanai, il y a des tropes.
Allez écouter le Sortons le Grand Jeu. Hein.
Ouais, exactement. On a fait un Sortons le Grand Jeu il y a pas très très longtemps. C'était le dernier de la saison dernière, je crois.
Par là, ouais. En tout cas, ouais, il y a quelques mois.
C'était sur Love Letter. Donc si vous recherchez sur le site Love Letter ou Seiji Kanai, vous devriez assez vite retomber dessus. Seiji Kanai, ça veut dire des cartes à effet, ça veut dire des effets qui se répondent, ça veut dire un metagame, et ça veut dire aussi du double guessing souvent. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans Wizards Cup. Voilà. Et j'ai remarqué que, alors moi j'avais la boîte en anglais, j'ai acheté la boîte en français pour la ludothèque, donc du coup j'ai les deux, là en ce moment j'ai les deux versions chez moi. Au dos de la boîte en français, ils ont écrit l'autobattleur de poche, c'est-à-dire en fait ils ont mis la tagline, l'autobattleur de poche, quoi. J'ai trouvé ça assez osé, parce que c'est quand même...
Hein ouais, c'est... Parce que encore plus audacieux que Spotsou encore, parce que... Parce que auto-battleur, c'est un terme quand même assez précis, notamment dans le monde du jeu de société. Dans le monde du jeu vidéo, maintenant, c'est un genre qui a connu un peu ses jeux mainstream. Mais si je me promène sur le trottoir et que je dis auto-battleur, je pense que la personne va croire que je veux me bagarrer, quoi.
Ah, c'est déjà pas mal, ça comprend que tu veux te bagarrer.
Ouais, bon, il y a pas tel dedans.
Non, mais après, tu le dis, c'est un genre qui, dans le jeu vidéo, a connu du coup des jeux grand public. Et donc, par ce biais-là, peut-être qu'effectivement, ça parle aux gens hein, plus qu'on ne le croit. Hein, je sais pas.
Peut-être,
en tout cas, j'ai été effectivement surpris. C'est un terme très technique quoi qu'on trouve du coup au dos de la boîte, l'autobattleur de poche. Et c'est vrai que bon, bah, pour le définir, à partir du moment où on sait ce que c'est qu'un autobattleur, du coup, on comprend.
C'est ce qu'il fallait faire il y a quelques années au moment de la sortie d'un autre jeu. Il a fallu expliquer à tout le monde du jeu de société ce qu'était un autobattleur.
Sortie des Challengers.
C'est ça.
Ouais, on en parlera forcément. Alors comment ça va se passer? Donc dans le jeu va donc opposer deux adversaires qui auront chacun un set de cartes identiques, donc 18 cartes chacun et chacune. Ces 18 cartes là donc sont les mêmes, donc il y a un paquet noir, un paquet blanc en gros, mais les 18 cartes entre elles, donc dans le paquet noir en gros, ce sont 18 cartes différentes. Et dans le paquet blanc, c'est les mêmes 18 cartes différentes. Hein, c'est clair?
Ouais, heureusement, parce qu'imagine, ce seraient les 18 cartes les mêmes, en fait, au sein d'un même paquet.
Ah, c'est encore plus audacieux comme genre de jeu. Et donc, on va... alors, c'est un jeu compétitif, hein, on va s'opposer. Le principe, ça va être de gagner deux manches. Donc, on va en faire fatalement au maximum trois. On va commencer par prendre une carte au hasard dans son paquet. On va la révéler. Donc c'est-à-dire que son adversaire connaît la carte qui a été tirée. Et ensuite, on va construire une équipe autour de cette carte-là en choisissant 5 autres parmi les 18, et ça de façon absolument libre. Donc il va falloir essayer de trouver les cartes qui vont soit aller avec sa carte, soit venir en opposition à la carte adverse, essayer de constituer une équipe comme ça qui va réussir à avoir à la fois une forme de polyvalence, j'ai envie de dire, ou peut-être pas, justement, peut-être essayer de trouver une équipe qui va avoir ses spécificités pour contrer vraiment l'équipe adverse qu'on imagine que l'autre aura construite à part autour de sa carte.
Il me semble que dans la règle, alors je me trompe peut-être, mais c'est l'adversaire qui choisit, qui prend ta carte au hasard.
Oui.
Ça n'a aucun impact, hein, en termes de mise en scène, tu vois.
C'est de la mise en scène, exactement. Oui. Alors, effectivement, en réalité, bah, ce qu'on fait souvent, c'est, enfin, nous, on étale le jeu, et puis, l'autre, elle vient piocher une carte dedans et la révèle. Donc, effectivement, quelque part, c'est lui qui l'a choisi, mais bon, c'est tout hasard.
Voilà, c'est pas du choix, ouais. Voilà, monsieur va nous tomber dessus. Voilà.
Mais, effectivement, en termes de mise en scène, je trouve, enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, faire comme ça, quoi. Dire, vas-y, tu viens piocher dans mes cartes,
et tu râler bien,
Oui, c'est ça, tu peux râler encore plus qu'on contrôle le destin. Et donc, on va donc se retrouver avec 6 cartes, comme ça, hein, dont une qui est connue de notre adversaire. Et on va, dans ces 6 cartes-là, on va en choisir 5 qu'on va empiler dans l'ordre de notre souhait. Il y en a une qui va rester de côté. Je crois qu'elle est dite en attente. Et ensuite, on va venir tout simplement dépiler nos cartes. En mode bataille, quoi, hein, comme si on avait distribué un jeu de 32 cartes, hein. Faites pas ça avec des jeux de 52 cartes, hein. La bataille. on laisse les distribuer, puis bon, on va les mettre les unes après les autres. Sauf que, bah, comme à la bataille, il y a une carte qui va gagner, ok, mais la carte qui gagne, elle va rester sur le terrain, d'accord?
Je vois.
Et on va enchaîner comme ça. Bah, si moi ma carte est restée sur le terrain, l'autre il va aller prendre la carte suivante et ainsi de suite. On va voir qui gagne, etc., etc. Voilà. Alors comment ça gagne, comment ça perd. Là, je vais y revenir un peu sur tout ça. Mais du coup, clairement, on l'a déjà cité. Hein, c'est vraiment un héritier de Challengers.
Inspiré des grands jeux, hein, celui-là.
Voilà. On a construit son équipe. Et puis on va dépiler de façon automatique et voir qui gagne. D'ailleurs, le Challenger, c'est pareil. Hein. Celui qui gagne, il reste sur le terrain et il va venir affronter une nouvelle carte qui peut-être viendra le détrôner, quoi. Et alors, comment ça se détrône, justement, dans Wizard Cup? C'est que il va y avoir un principe de Shifumi, déjà. C'est-à-dire que t'as des cartes qui ont des éléments. Donc il y a le feu, l'eau et la nature, je crois, ils l'appellent dans
Wizard Cup. Ouais, pensez à Pokémon, hein, Salamèche qui bat Bulbizarre, qui bat Carapuce, hein, et qui bat Salamèche, voilà.
ça doit être ça, ouais, exactement. Donc il y a ces 3 éléments-là. Donc à partir du moment où moi j'ai une carte d'eau et que toi t'avais mis une carte feu, bah je te bats, hein, ça va pas plus loin, en gros. Et puis il y a des cartes qui ne sont pas sur ces éléments-là. Il y a d'autres éléments, en fait. Alors il y a le neutre qui à part du coup n'est pas un élémentaire. Alors j'ai pas dit, mais c'est vrai. C'est des sorciers. Donc ils sont affiliés à des éléments. Bon, vous avez compris le thème. Fou, on va pas trop en parler. C'est pas
joli. Voilà, c'est bien illustré.
ouais, c'est ça. C'est joli, machin. Bon, je trouve que. Pour le coup, autant tu vois dans Love Letter, d'ailleurs les noms des cartes sont assez significatifs. Ok, tu peux essayer de dire ok, ce nom-là, il est relatif à son pouvoir, machin. Pff, dans Wizard Cup, c'est pas.
Ouais, on s'en fout. Vraiment.
C'est pas ouf. Non, c'est non, pas non. Ouf. Donc du coup, moi j'ai pas encore réussi à retenir. Il y en a quelques-uns que je connais de nom, mais franchement, il y en a plein. Je connais même pas leur nom, quoi.
Ouais.
Et donc il y a des sorciers neutres, du coup. Deux autres éléments, il y a la lumière et les ténèbres. En fait, les 3 éléments principaux qu'on a cités, donc feu, eau, nature, vont battre l'élément de lumière. Ouais. Et la lumière va battre les ténèbres. On voit que c'est un Shifumi un peu bizarre, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est même pas un puits, tu vois, qui a. C'est pas facile, je trouve, à expliquer. Parce que autant les 3 éléments principaux, bah c'est il y a une forme de logique qui est comme dit dans Pokémon ou quoi, enfin
pure Shifumi, quoi.
Et après effectivement les trucs sont plus du tout équilibrés et ça complexifie à la fois l'explication et évidemment aussi l'appréhension de la puissance des cartes entre guillemets.
Ouais, ça crée effectivement un truc qui est pas hyper facile à intégrer. mais qui aussi amène de la profondeur dans le jeu, parce que on a un peu ce côté où la carte la plus forte, alors par sa valeur, parce que les cartes elles ont aussi des valeurs, et donc ça c'est le deuxième élément qui va arriver hein, derrière le derrière l'élément, et merde, derrière l'aspect, on va dire, élémentaire, il y a la valeur de la carte, et donc si l'aspect élémentaire ne donne pas le résultat du combat, on va regarder la valeur
feu,
de la carte.
Je mets feu, tu mets ténèbres. Bah, voilà. ces deux éléments n'interagissent pas entre eux, en fait, en termes de puissance. Donc là, on va vérifier la valeur.
C'est ça. Et donc, typiquement, la carte la plus forte, elle est en ténèbres. Sauf qu'en fait, elle va se faire battre par n'importe quelle carte lumière qui, de base, est moins forte, quoi.
Et toi, tu le sais.
Et voilà. Et on le sait. Et donc, typiquement, si toi, t'as chopé, j'ai révélé dans ton jeu au début la carte la plus forte ténèbres, qui est le chirurgien, hein, parce que celui-là, je le connais. Bah, forcément, moi, je vais mettre une carte lumière dans mon jeu. C'est obligé. Tu vois. Et du coup, comme moi j'ai mis une carte lumière dans mon jeu et que tu sais que j'ai mis une carte lumière dans mon jeu parce que t'avais une carte ténèbre, forcément toi tu vas mettre une carte élémentaire, de base. Et alors c'est là que je veux en venir, c'est que en fait dans un jeu comme Wizard Cup ou dans Challengers, dans lequel t'as toute une phase qui est automatique, en réalité, et plus fortement dans Wizard Cup, je trouve, t'as énormément de choix en fait à côté, quoi. C'est oufissime, parce que t'as vraiment le choix, les 5 cartes que tu vas choisir, tu les choisis parmi 17 quand même.
Ouais, heureusement qu'il y a cette première carte au début qui t'oriente un peu, je trouve. Quand bien même, après, t'as la partie guessing qui t'ouvre beaucoup de portes et qui peut te faire un peu du brain burn. Enfin, te faire brûler le cerveau, pardon, pour l'anglicisme. Tu peux quand même choisir de te fier un peu à cette orientation, un peu comme tu sais dans les jeux euro plutôt, qui ont des trucs qui vont t'orienter un peu dans tel ou tel axe stratégique,
sans t'y forcer. Un coup départ qui va te
Mais ça permet un peu pour les premières parties de se faire une espèce de synergie assez évidente.
Ah, c'est intéressant comme parallèle d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans des jeux de gestion, comme tu dis, on va te donner un petit pouvoir au départ qui va peut-être t'orienter dans ta stratégie. Et là,
extrêmement asymétriques à la route ou à la Marco Polo, mais plus des trucs qui vont te donner des éventuelles orientations de départ, quoi.
Ouais, c'est ça. Pour le coup, ça oriente les deux joueurs joueuses quand même.
Ouais.
C'est ça qui est assez rigolo dans
les
sens.
Tu vas contrer.
Ouais, c'est ça. Ça t'oriente toi dans la synergie que tu peux créer dans ton jeu et l'adversaire dans l'opposition qui va les placer, quoi. Et en rebond, comme j'expliquais, quoi.
Et c'est ce que tu disais, super important. Hein. C'est la phase de bataille d'auto-battleur là. Et c'est super important, effectivement, de l'enrober, de trouver un moyen pour mettre à côté du choix intéressant. Et également, trouver le bon rythme de la phase d'auto-battleur pour que ce soit pas chiant non plus, contrairement à la bataille. Ouais. C'est sûrement le truc le plus difficile, je pense. C'est que la phase d'auto-battleur où tu fais rien, soit quand même drôle, mais surtout soit rythmé, quoi, pour pas que ça soit, c'est tout un talent, quoi.
Et là, effectivement, là, c'est rythmé sur 5 cartes, donc, on voit bien que ça va pas être
long. Et pas que, tu vas parler des effets, mais...
Ouais, exactement. Et c'est rythmé aussi effectivement par les effets des cartes. Parce que là, donc, j'ai expliqué assez basiquement l'aspect élémentaire du sorcier, sa valeur chiffrée. Mais il y a aussi des effets qui sont rajoutés, des effets en particulier qui vont jouer dès le retournement de la carte. Donc parfois en fait on va même pas aller regarder le il y a une carte typiquement je ne sais plus son nom, elle va détruire les deux cartes, voilà. Elle dit toi en face tu meurs, moi aussi je meurs mais toi aussi, voilà. C'est la carte la plus faible du jeu, hein, je crois que c'est le 1, et mais sauf que celle-là en fait t'es sûr d'annihiler la carte adverse, quoi, voilà. Donc toi t'avances pas trop, hein, parce que j'ai peut-être pas dit, mais le principe c'est de survivre, hein, donc c'est d'être le dernier à avoir un sorcier, une sorcière devant soi à la fin de la phase d'auto-battleur. Donc forcément quand tu t'en défausses une de base, c'est pas ouf, mais parfois c'est peut-être la carte que tu aurais eu du mal à passer avec tes autres sorciers, donc pourquoi pas, quoi. Bref, il y a tout un tas d'effets comme ça qui vont arriver. T'as des effets aussi qui sont un effet qui est pas un effet tout de suite en arrivant, mais qui est un effet permanent en fait de ta carte. Il y en a une, par exemple, elle dit en fait c'est toujours les valeurs les moins fortes qui gagnent, voilà. Bon, sachant que c'est un 6, donc c'est quand même une valeur moyen plus, parce que la plus grande c'est 10. Mais voilà, quoi. Donc celle-ci, tant qu'elle est en jeu, en fait, elle va contrer du coup toutes les valeurs qui seront plus élevées, finalement. Il y a ça, et puis il y a des effets aussi. Une fois que ta carte elle a perdu, elle va aller sur une défausse, et il y a des effets qui s'exercent une fois que la carte elle est au-dessus de ta défausse. En gros, c'est la dernière carte qui a été défaussée. Là, typiquement, on trouve des synergies.
Ça a donné des bonus ou des trucs comme ça.
Ouais, c'est ça. Ça donne des cartes, des bonus sur la carte qui est présente sur ton, enfin, chez toi, quoi, dans ta zone de combat. Ce genre de truc, quoi. Donc, effectivement, il y a tout ça qui va interagir. Sans que ce soit trop compliqué non plus, parce que, enfin.
Ouais, c'est simple.
T'as un effet immédiat, ça séquence bien, y a pas tout ultra compliqué, on n'est pas non plus dans Magic the Gathering, quoi.
Non, pour exagérer. Moi, c'est plus simple que l'effet, le côté Shifumi, par exemple, les effets. Et tu vois, c'est ce que je disais, par contre, sur le côté rythme. Bah, en fait, ça réserve des surprises et tout, et ça met de l'animation, et du coup, ça permet de lever l'ennui que peut provoquer, sinon, le côté auto-battleur, quoi.
Ouais, complètement.
Parce que le jeu vidéo a sa mise en scène. Tu vois, il y a des effets visuels et tout, et des effets de combat, souvent, machin. Le jeu de société, il y a pas forcément ça, évidemment, tu vois, et du coup, il faut trouver des moyens de te stimuler par de la mise en scène, par des petits trucs. Et c'est ça. Je trouve qu'il y arrive bien quand même.
T'as pas d'effet visuel, mais pour le coup, t'as des effets mécaniques, quoi.
Ouais, c'est ça.
T'as des effets mécaniques, puis t'as le, si tout bêtement, bah, le suspense de la carte que tu vas retourner, l'autre, ok, il vient de te battre une carte, deux cartes, puis toi, t'as le sourire, parce que je rappelle qu'on les a ordonnées, nos cartes. Donc, on sait ce qui va tomber. Donc, on sait à un moment si on n'a pas de mémoire de poisson rouge, parce que la même moi, j'arrive à me rappeler quand même, des cartes que j'ai posées normalement. tu sais que il y a un moment quand même tu vas peut-être te sortir de l'ornière quoi.
Un plaisir anticipatif, ouais.
Ouais, c'est ça. Sauf que tu sais pas quelle est la carte suivante.
C'est ça.
Ouais, il y a vraiment ce petit plaisir, tu vois, du suspense, de la révélation, de là je sais que je vais t'avoir plus tard. Tu vois, il y a ce petit jeu aussi entre les deux joueurs joueuses qui peut se mettre en place. Une forme de mise en scène un peu qu'on exerce l'un avec l'autre.
Et ce qui est fou, c'est que tu parles de suspense alors que tout est résolu, quoi. Tu vois.
Bah oui.
Et le joueur arrive quand même à le créer malgré tout.
Tout est résolu par la combinaison des deux paquets, mais toi, t'en as construit qu'un et t'en connais qu'un.
Mais tu vois, tu pourrais dire ouais, bon, on s'en fout maintenant, on révèle parce que de toute façon. Mais en fait, non, tu vois, il y a quand même une tension qui se met en place, alors que dans l'absolu, tu vois, enfin, ça pourrait être aussi chiant que la bataille, quoi.
Ouais, bah après je pense qu'il y a des gens qui vont le prendre froidement et qui ressentiront pas ce que nous on a pu ressentir dans le jeu et vont passer à côté de cet aspect-là, hein. Ça je dis pas que c'est obligatoire de le ressentir et que si vous le ressentez pas vous êtes des nazes, hein. Mais en revanche je trouverais ça dommage spécialement, quoi, parce que je pense que c'est des choses qui expriment le jeu et je pense que le jeu a fait ce qu'il fallait pour maintenant ça marchera peut-être pas sur tout le monde, c'est sûr, on est tous différents les uns des autres, hein. Alors je voulais quand même parler maintenant d'un autre aspect, parce que j'ai dit que le jeu se jouait en deux manches gagnantes. Or ça peut paraître un peu en tout cas on en a connu des jeux qui jouent en plusieurs manches et dans lesquelles le fait de faire d'autres manches ça changeait que dalle, quoi. Voilà, donc ça n'amène pas un intérêt supplémentaire au jeu. On pourrait faire une manche et puis ça s'arrêterait là et voilà.
Ouais.
Mais en fait là justement dans Wizards Cup, tout l'intérêt c'est de jouer en plusieurs manches.
Ah bah oui.
C'est ce que d'ailleurs c'est Pionfessor qui en parlait. Bah quand on a fait le sortant le grand jeu sur CJ Canaille, il disait ah oui, moi Wizards Cup je vois ça comme le BO3 à Magic. Alors le BO3 Magic, c'est tu vas faire une partie contre quelqu'un et en fait tu vas rejouer une deuxième partie avec les mêmes decks. On joue avec les mêmes decks et mais on a le droit de en fait normalement on a un petit paquet de cartes à côté qui sont des cartes qu'on va pouvoir inclure dans son paquet en fonction des circonstances. Et donc typiquement là tu vois que l'autre il a joué rouge. Maintenant que t'as fait une partie, tu peux mettre des cartes qui sont anti rouge. Ou tu vois qu'il a joué, je sais pas, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, des grosses cartes, beaucoup de créatures. Tu vas mettre des trucs qui vont plutôt contre les créatures. Hein, voilà. Tu vas pouvoir adapter un peu ton jeu.
Mais lui sait que tu risques de faire ça, etc. T'as aussi des jeux de plis qui font ça où tu peux refaire des manches avec exact. Tu sais, au lieu de récupérer, chacun récupère sa carte et du coup tu refais le truc, mais sauf que tu sais exactement ce qui a été joué avant. Ça joue sur. Alors il n'y a pas de modification de la main ou quoi, mais ça change quand même la perception, parce que tu sais la dynamique qu'il y a eu la manche d'avant et tu vas essayer de mieux tirer parti de ta main la manche suivante, quoi.
Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup Wizards Cup, c'est ça en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va jouer avec les. On a donc récupéré 6 cartes. On a fait une première manche, il y a eu un gagnant ou une gagnante, et on va faire une deuxième manche. Alors c'est là que la dédicace à Goom. On va faire une deuxième manche. Alors, dans la version originale, donc celle que j'ai acquise à Essen, on fait une deuxième manche avec exactement les mêmes 6 cartes. Juste, ouais. On va changer l'ordre. On va pouvoir changer l'ordre. On va pouvoir changer la carte qui a été mise en attente. Ouais.
Ça, c'est quand même important. Voilà. C'est déjà une modification forte, je trouve.
Et dans la version française, il se trouve qu'il y a eu un changement de règle. On va carrément pouvoir enlever une carte parmi les 6 et en reprendre une dans les 12 pardon, qui restent, j'ai envie de faire le calcul, dans les 12 qu'on a laissé de côté au départ. Ce qui est du coup une modif beaucoup plus forte, parce que là
J'ai pas essayé encore cette version-là et je suis curieux justement de ton ressenti là-dessus, moi ça me fait un peu peur.
C'est moins radical. C'est moins radical que la version originale où, toi, vraiment, imagine, t'es avec les mêmes 6 cartes. Et, en fait, il peut arriver qu'avec ces mêmes 6 cartes, du coup, t'aies fait une composition qui de toute façon te fera perdre, en fait. Ouais, et donc, c'est un peu dommage. Donc, tu vas faire une partie un peu à blanc. Bon, ce qui t'empêchera pas de faire une autre partie derrière. Mais si tu veux, la deuxième manche va peut-être ressembler à la première et puis tu vas te faire massacrer parce que de toute façon, t'avais pas trop moyen de te retourner. En revanche, quand tu trouves un moyen de te retourner avec tes 6 cartes, alors que tu t'es fait ratatiner la première manche, alors là, c'est ultra jouissif.
T'es fier.
Parce qu'en fait, quelque part, t'as trouvé un peu la solution à un problème, et surtout, t'as été plus malin.
T'as pas changé d'outil. T'as gardé les mêmes outils.
Ouais. Exactement. T'avais les mêmes outils, donc c'est un peu comme toi dans la vie de tous les jours, quoi, si tu veux. Hein, t'es toujours muni à peu près des mêmes compétences du jour au lendemain. Et, en fait, t'as réussi quand même à contourner le problème. Alors, soit parce que, t'as bien deviné comment l'autre aller jouer, est-ce qu'il allait jouer exactement pareil, est-ce qu'il allait jouer pas tout à fait pareil,
soit parce que ouais, t'as eu de la chance aussi hein, des fois hein.
ouais, ça peut être la chance, ça peut être ça peut être de la logique aussi hein, parce que des fois simplement en fait mettre une carte qui est tombée à la fin, la mettre au début, ça peut aider, enfin bref, tout ça c'est question de circonstances quand même, mais en tout cas ouais, quand tu avec tes mêmes 6 cartes tu défonces l'autre alors que tu t'es fait défoncer précédemment, c'est quand même assez jouissif. Et la règle du coup qui a été modifiée, alors a priori c'est une modif officielle hein, c'est parce que je suis allé voir sur le BGG, dans la description du jeu c'est vraiment, c'est indiqué maintenant que tu changes une carte entre les manches, enfin, moi je l'ai compris comme ça en tout cas, ouais.
D'accord.
Donc ça ajoute beaucoup plus de souplesse hein, ça donne beaucoup plus de contrôle, ça donne beaucoup plus de choix du coup c'est dans le jeu. Et du coup, moi, ça me paraît pas déconnant. En tout cas, on a joué comme ça. Ça te permet parfois de te sortir de certaines situations. Effectivement, tu vois que finalement, ton adversaire, il a pris du vert. Enfin, il a pris des cartes nature. Des sorciers type nature. Je vais prendre du feu, quoi. Tu vois, je sais comment celle-là, je pourrais les contrer, quoi. Et surtout, s'il en a pris deux, tu sais que même s'il en jette une, il y en aura encore une dans son paquet, quoi. Donc, tu vas pouvoir jouer comme ça. Et du coup, ça va relancer une phase de guessing, double guessing, sur la construction. Parce que l'autre, il fait, ok, alors attends, j'avais deux vertes, il avait rien pour contrer ça. Est-ce que du coup, il va pas prendre du feu? Du coup, est-ce que moi, je vais pas prendre de l'eau?
Ah, ok, ouais, tu sais, les deux qui peuvent changer une carte, hein. C'est pas que la personne qui a perdu.
Ouais, ok. Non, c'est les deux, ouais. Ou alors, j'ai mal lu la règle.
Non, je pense que ça doit être ça. Ce serait juste une orientation différente en termes de game design.
Mais... ouais. Mais ça aurait pu, toi. Ça aurait aussi pu. Typiquement, quand j'ai lu la description, je me suis dit, attends, je vais bien te pour lire parce que justement, j'ai pensé à la même chose que toi. Je me suis dit, attends, est-ce que ça se trouve, c'est pas juste quand t'as perdu, t'as le droit, tu vois. Ça aurait pu aussi, ça aurait été pertinent aussi d'une certaine façon. Et on a joué, moi les dernières parties que j'ai faites, je les ai faites comme ça du coup, et j'ai trouvé ça vraiment plutôt intéressant quoi. Alors du coup, oui, message à Gaume, parce qu'on n'avait pas trouvé, je suis allé voir dans les forums, j'ai pas vu de questions de règles là-dessus, et en fait j'ai vu dans la description quoi, tout bêtement, comme si de rien n'était. On peut parler d'un changement de règle, non, c'est la règle, bizarre. Donc voilà, ouais, pour cet aspect-là. J'ai pas grand-chose d'autre de plus à raconter. Hein. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hein.
J'avais peur que ça... parce que je trouve que c'est quand même un jeu... tu vois, le choix de départ, malgré la première carte que tu prends, est assez ouverte. Le choix de départ est assez ouvert. Et moi, c'est presque paralysant par moment. Et du coup, j'ai souvent tendance à aller vers les mêmes cartes qui sont un peu des doudous et que je sais assez polyvalentes et que je prends pas de risques.
Ça, c'est bon pour le metagame entre les joueurs.
Bah oui, évidemment. Mais ouais, Et j'avais peur justement. Du coup, en fait, ce côté paralysant, je l'avais que au tout début de la partie. Et j'avais peur que ça le reprovoque entre chaque manche, tu vois, et que ça rende, entre guillemets, la phase de choix un peu trop lente.
Ben,
et un peu
non,
trop
je,
brain
alors,
pour
je,
ce que le jeu.
Je veux pas te dire non. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est sûr, ça va te remettre devant des choix. Je l'ai dit, ça va te remettre devant un choix. Et donc, si tu trouves ça paralysant, oui, potentiellement. Alors,
Ouais.
Y a qu'une carte, donc faut relativiser.
Ah oui,
Mais
bien sûr.
T'es quand même en mode, enfin c'est du jeu, c'est du pur jeu de double guessing. Il faut rentrer dans la tête de l'autre. Donc t'es vraiment en mode, ok, qu'est-ce qu'il va sortir comme carte? Est-ce qu'il va sortir une carte? Parce que t'es pas obligé.
Ouais,
Et
bien
puis
sûr.
si ça se trouve, t'as pas vu toutes ces cartes. Hein? Voilà, là tu tournes en boucle tout seul dans ta tête. Mais bon,
Ah
ça
ouais.
dure pas non plus, ça va pas durer
Oui.
5 minutes non plus, tu vois. Ça va durer au
Oui.
max 1 minute, allez, 1 minute
Ouais,
30, et vraiment tu te... Et l'autre, en même temps, il le fait aussi, donc alors peut-être que lui, ça va durer que 30 secondes, et toi, ça va durer 1 minute 30, bon,
Oui,
ça
et puis
va,
après, vu la
c'est...
durée réelle du jeu, tu vois, il l'annonce 15 minutes, en vrai, c'est rare que tu fasses des parties de plus de
Ouais.
10. J'ai quand même réussi à me dédouaner de ce côté paralytique, soit en allant vers les mêmes cartes, soit en me disant je m'en fous, et puis vas-y, amuse-toi. Et là où il y a certains jeux où j'arrive pas, tu vois,
Ouais.
à m'écarter de ça et où je bloque vraiment, quoi, et où ça m'énerve. Là, ça va, non, celui-là.
Non, il y a un côté dédramatisant quand même dans le jeu parce que là tu joues
Ah,
vraiment en 10 minutes
c'est la
quoi.
foire à la saucisse aussi un peu, hein. C'est enfin comme
Ouais,
Challengers, tu vois.
ouais,
Alors
ouais,
Challengers, ces illustrations font encore plus foire à la saucisse.
ouais.
Mais t'es là et tu dis ouais, vas-y. De toute façon, enfin c'est le propre des auto-battleurs, c'est de créer de la surprise et du grand n'importe quoi et des trucs qui ont aucun sens et qui devraient peut-être pas se passer comme ça, mais qui se passent quand même comme ça, quoi. Alors quand t'as le hasard du tirage, c'est encore plus le cas évidemment que quand t'as choisi l'ordre. Mais Wizards Cup garde ça quand même un peu du côté situation un peu improbable et spectaculaire.
Ouais. Ce qui est quand même intéressant, tu vois, sur cet aspect composition, tu vois, de départ, c'est que je pense qu'il y a des compositions optimales.
Oui.
C'est-à-dire que je suis,
Ah, je pense qu'il y a
enfin,
des
en
tier
fait,
list, hein, enfin.
j'avais commencé à faire un tableau, puis je me dis, ah non, vas-y, c'est bon, attends, fais pas ça. Puis après, je me suis dit, attends, ça se trouve, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Bon, j'ai pas regardé, en fait. Mais sûrement qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait un tableau.
Mais comme dans les JCC, en fait, hein, tu parlais de
Pour
Magic, tu vois.
dire ok, non mais parce que là c'est simple en fait, tu fais un tableau à deux entrées, tu mets tous les personnages et tu dis bah en fait ce personnage là il bat celui-là, celui-là il bat celui-là, celui-là il bat celui-là, donc tu vas avoir un moment là où il y a le plus de croix quoi, tu vois, sauf qu'il y a des effets, il y a les
Voilà.
effets des cartes, c'est qui sont mises quand elles ont perdu, qui peuvent
Ouais.
donner des plus 2, des plus 3, des machins. Donc en fait, ça complexifie vachement le truc. Mais de base, tu ferais un tableau comme ça. Tu verrais, il y a sûrement des trucs qui se dégagent, quoi. Une espèce de composition un peu optimale pour essayer de couvrir un petit peu toutes les cartes. Sauf que derrière, il y a encore l'ordre quand même qui intervient. Bon. Mais tu vois, c'est le genre de truc qui est susceptible de créer un vrai metagame, comme on en voit dans les jeux de cartes à collectionner.
Bah ouais,
C'est-à-dire,
c'est
en fait,
ça.
t'as des decks qui sont joués. Et tu sais, du coup, à partir du moment où il y a telle ou telle carte, quel deck est joué. Alors là, je rappelle qu'il y en a une qui tire au départ de carte. Donc du coup, avec la carte qui tire au départ, tu pourrais dire, ok, bah ça, avec cette carte-là, il peut faire un deck, tu vois, le deck Shifu, le deck Michi, le deck, enfin, tu vois,
Ouais.
tu pourrais inventer des noms de deck et tout, enfin, mais en fait, je trouve que le potentiel, il est ouf, en fait.
Oh ouais,
Sur un pauvre jeu avec 18
c'est
cartes.
ça, ouais, qui dure 5 minutes, ouais.
Il y a un potentiel de jeu de cartes à collectionner derrière, en vrai, quoi. Avec,
Mais il y a un esprit, en fait, derrière, quoi.
ouais, il y a tous les tropes qu'on retrouve derrière. Il y a un vrai esprit. Et si ça se trouve, je sais pas si lui, il y a pensé, c'est Vicanine, mais, enfin, on l'avait dit dans l'émission, c'était un joueur de Magic à la base. Et en vrai, plus je pense à ce jeu, plus je vois ce qui est autour, et plus je me dis, mais en fait, à fond, quoi. Enfin, je pense que Professeur, il avait intuité ce côté, c'est un mélange, c'est un espèce de Magic au BO3. Moi, j'ai dit, bon, il exagère un petit peu le côté Magic, quoi. Mais en vrai, je pense qu'il y a au-delà de simplement la mécanique des cartes avec des effets, en fait, il y a vraiment ce côté construction de deck avec des méta qui peuvent se créer, etc. Et je pense que, enfin, il y aurait moyen d'avoir des compétitions autour de ce genre de jeu. Alors, ce serait très serré, hein, c'est très serré comme
Ouais,
méta.
et puis ouais, comme
Hein.
dit, des tier list et tout, tu vois, des tier list et des probas de tel deck contre tel deck, c'est plutôt lui qui sort dans tel ordre, ce genre de truc, ouais.
Bon, voilà. Enfin, je confirme mon ressenti d'Essen. Je l'amplifie par le côté fascinant de tout ce qui peut être autour de ce jeu-là, qui n'a sans doute pas encore été créé, mais tu vois qu'on extrapole et qu'on imagine un peu. Ouais, moi c'est, je trouve c'est une petite claque quand même ce jeu. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de finesse dans ces 2 x 18 cartes. Et chapeau bas à Sergi Canaille.
Ouais, il est fort parce qu'il a réussi. Enfin, tu vois, Challengers, on a dit que ça serait un jeu important en termes de game design. Il a réussi à tout de suite lui coller sa patte, en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui est fort, tu vois. C'est et parce que je pense que, enfin, je sais pas, parce que Challengers
Et
date
il y
de
a pas grand-chose qui est
2022.
sorti, hein, parce qu'on a dit que ça sera un jeu important Challengers, mais pour l'instant, on attend encore un peu quand même, hein.
Non, mais oui, c'est vrai. Hein, il y a l'Autobattler. Après, c'est parce qu'il faut trouver quels éléments de choix tu mets dedans, en fait. Parce que l'Autobattler
Ouais.
en soi est pas intéressant. Il faut trouver comment faire de ça un jeu intéressant. Et Seiji Kana y est arrivé avec en plus son identité d'auteur. Et ce qui est trop fort, c'est que ce qu'on dit souvent sur Challengers, tu vois, qu'on est beaucoup aimé dans l'équipe, c'est qu'il y a le côté tournoi, mais qu'il n'y a pas du tout le côté méta, trop, parce que tu rejoues pas contre les mêmes personnes. Bah là, il a réussi à mettre la méta qu'il n'y a pas dans Challengers dans l'Autobattler, en fait.
Ah ouais, c'est même là, c'est même carrément le contre-pied parce que ça joue qu'à
Ah ouais.
deux et tu rejoues vraiment contre le même quoi, donc avec le même deck quasiment.
C'est ce qui justifie les plusieurs manches, quoi. Enfin, parce que justement, c'est
Ouais.
ça qui permet à la méta de se créer. Plus en plus, après la méta, effectivement, qui se crée entre les parties, sur l'habitude que t'as face à Flavien qui fait tout le temps le même deck parce qu'il est fainéant. Mais ouais, enfin, ça confirme, tu vois, le côté. Il réussit pas tout, c'est J. Canaille, parce que.
Non, non,
Il est quand même très très fort, quoi. Il a des trucs qui sont assez brillants de ce point de vue-là, quoi.
voilà.
Et la boîte française, t'as un mot dessus sur le visuel? Est-ce que tu valides le côté plus lumineux
Bon,
que
après,
la nôtre?
bah, je valide. Il faut être honnête, c'est que ça reprend du coup des visuels qui sont dans le
Dans
jeu,
le jeu,
ce qui
ouais.
n'était pas le cas de la version originale.
C'est vrai, ouais,
Même
c'est
si
vrai.
ça ressemblait, c'était pas les mêmes tons, c'était pas les mêmes, voilà quoi. Donc du coup, c'est quand même plus cohérent sur la version française. Faut bien l'admettre. La version française, la boîte est un tout petit peu plus grande, mais bon, le prix est resté à 9,90, donc bon, j'ai pas grand-chose à dire. Puis franchement, là, c'est 5 mm, hein, on va
Ouais.
pas déconner.
Moi, je trouve ça très joli comme jeu. Hein. Je trouve le travail de Yamamori super, super élégant. Les couleurs utilisées, très pastel et tout.
C'est élégant, je trouve que c'est plus attirant le visuel du coup qui a été choisi par la version française. Donc non, j'ai pas grand-chose à en dire. Hein. Donc non, c'est plutôt bien joué de la part de la boîte de jeu à mon sens.
C'est quand même audacieux, je trouve, de l'avoir localisé parce qu'on se demandait, tu vois, ouais, ça serait bien que ça arrive en français et tout, mais sans forcément y croire parce que c'est quand même un jeu un peu spécifique. Tu vois, le fait que ce soit K2, Challengers a pour lui le fait de faire un jeu en grand groupe, tu vois.
Bah ouais, c'est sûr. Je sais pas si ça aura beaucoup de succès, j'en sais rien. Le jeu a pour lui un prix très raisonnable. Sur les aspects marketing, voilà, c'est de la petite boîte. Je pense que le visuel a été bien choisi. Le prix est raisonnable. C'est le genre de produit, hein, j'ai envie de dire, que justement les éditeurs ils cherchent à faire en ce moment. Des boîtes pas chères, voilà, c'est l'achat coup de cœur. Ça peut marcher. Maintenant, moi c'est autre chose que j'ai envie de souligner dans le jeu, pour
Bien
que
sûr.
justement bah, les gens aillent vers ce type de jeu. Je trouve que c'est particulièrement original, on l'a dit, il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis Challengers. Il y a ça, il y a un jeu que j'ai essayé cette année à Essen que j'ai trouvé nul à chier, c'était Golden Cup, là, chez
Ouais. C'est Cranio, Cranio.
Cranio Création.
Ouais, Bubola et Luciani, c'était.
Puis je sais pas ce qui est sorti d'autre, mais pas grand-chose. Donc non, mais voilà, il faut s'y intéresser.
Ouais, c'est un jeu qui mériterait peut-être des cartes en plus. Alors il n'en a pas besoin, mais ce serait rigolo. Après, je suis pas sûr effectivement qu'il ait le succès pour.
Bah en tout cas, quand on connaît Seiji Kanai, quand on connaît ce qui a été fait sur Love Letter et ce qui a été fait sur The Lost Legacy, bah en vrai, oui, il y a du potentiel à aller faire d'autres decks. Avec du
Mais
coup
oui.
d'autres cartes qui vont avoir d'autres types d'interactions,
D'autres effets, d'autres éléments.
ouais c'est ça, qui pourrait jouer en standalone et peut-être
Mais oui.
pourquoi pas se jouer mixé, hein, j'en sais
Mais
rien.
oui.
On pourrait imaginer une scène internationale avec des joueurs et des
Une
decks.
proposition éditoriale à la Unmatch, tu vois, un peu.
Bon voilà, donc c'était Wizard Cup, un jeu de Seiji Kanai, illustré par Yamamori, édité par Jellyjay Games, localisé en France par La Boîte de Jeux, distribué par BlackRock, pour 2 joueurs et joueuses exclusivement, à partir de 12 ans. Alors moi je joue avec mon fils qui a 10 ans, d'ailleurs sur la boîte en VO c'était marqué 10 ans. Bon après mon fils il a l'habitude on fait un peu de jeux de cartes à collectionner, des choses comme ça, donc des interactions de cartes. Mais encore une fois, c'est quand même vachement plus simple que les interactions de cartes qu'il y a dans des jeux de cartes à collectionner. Hein.
Ouais, oui.
Donc bref, 12 ans. Bon, je comprends pourquoi la boîte de jeu a rehaussé, un peu par sécurité peut-être. Bon, bref. Ils donnent 15 minutes. Fabriqué en Chine, ça c'est le truc un peu dommage parce que bon, il y a quand même que des cartes et un punch avec trois cartons dedans, quoi. Donc bon. Et donc c'est dispo à 9,90€ à la Caverne du Gobelin. Voilà, voilà pour Wizard Cup. Et ben Flavien, c'est la fin de cette émission.
C'est la fin. Merci d'avoir écouté cette émission, ce nouvel épisode des Jeux du Mois. Que vous l'ayez aimé ou non, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeux avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur à peu près tous les réseaux sociaux. On est sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur Blue Sky, Mastodon. On est aussi sur Discord, hein, pour discuter directement, c'est peut-être le plus simple, voilà, en termes de discussion plus instantanée. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager nos émissions, que ce soit sur les réseaux sociaux susnommés ou à vos proches. Vous pouvez parler de nous autour de vous. C'est un peu tard, mais sinon, faut le faire pendant les fêtes. Hein. Vous mettez Proxy Jeux sur l'enceinte et les gens disent « Ah, c'est bien, qu'est-ce que c'est ?» Faites-le l'année prochaine. Si vous avez aimé ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, Cyrus, si on nous aime et qu'on a eu des étrennes à Noël et qu'on n'a rien à acheter?
Alors, on peut nous le dire dans les commentaires, ça du coup on l'a déjà dit, mais on peut aussi nous le dire avec de l'argent, du pognon. On peut nous le dire avec un petit...
C'est pas dites-le avec des fleurs, hein, c'est dites-le avec l'argent.
Ouais, qu'est-ce que tu veux, on est vénal, c'est comme ça.
Et oui.
Non, mais ça nous aide à faire plein de trucs. Typiquement, on va aller à Cannes bientôt, hein. Ouais, ça permet de payer
C'est comme ça que vous pouvez aller à Essen pour découvrir Wizards Cup et après être influenceur auprès aussi. Des éditeurs pour qu'ils le fassent.
Exactement. Exactement, ouais. Bon, je suis pas sûr que ce soit nous qui ont influencé la boîte de jeu, mais.
Non.
Mais en tout cas, on en a du bien en rentrant. Donc PayPal ou virement bancaire, voilà, vous nous contactez sur la page d'accueil du site, il y a le PayPal, et pour le RIB vous nous contactez en message privé ou sur les différents réseaux sociaux qu'on a indiqués, on vous donne notre RIB et vous pouvez nous faire des virements bancaires. Voilà. Bon, le mois prochain il y aura un nouveau duo dans les Jeux du Mois, puisqu'il y aura une nouvelle émission des Jeux du Mois si tout va bien, et la semaine prochaine vous allez avoir le droit à un nouveau dossier dans lequel si tout va bien, hein, si ta crève te lâche un peu, Flavien,
ouais,
tu devrais,
si je suis
être,
à peu près dans cet état, ça devrait aller, mais si ça empire, bah non. Ouais, mais normalement j'en serai avec les amis Kurtz, Bartouf et le Pionfesseur, et un peu différent comme dossier, on va s'attarder sur un terme qui va être rejoué, et chacun d'entre nous arrivera avec une petite chronique consacrée au fait de rejouer. Voilà.
Bah, c'est pour revenir avec Wizard Cup, hein. Rejouer la manche après la manche 1.
C'était complètement pertinent, hein, ouais. Rejouer était complètement là-dedans.
Voilà. Bon, bah, voilà, ça faisait une transition pas trop mal pour le dossier. Bon, bah, allez, on vous dit à toutes et tous à très bientôt, et surtout, jouez bien.